I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Et si aujourd'hui nous partions à la rencontre d'une sportive en construction? C'est elle qui le dit sur son compte Instagram. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de sport, surtout de mouvement, et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire à la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos. Je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertrandsoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, nous partons donc à la rencontre de Caroline, que vous connaissez peut-être sous le nom de « Depuis que je cours » sur Instagram. Ça fait quelques mois que j'ai découvert Caroline via son compte Instagram, et beaucoup de ses réels m'ont fait sourire, rire et aussi rappeler des moments et des pensées que j'ai pu avoir. Alors, je voulais en savoir plus sur elle et vous la faire découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Caroline est une quasi-débutante, hein, comme elle le dit, qui partage son quotidien de coureuse avec de nombreux réels et beaucoup d'humour. Elle se moque d'elle-même et de sa vitesse, elle ose aborder des sujets que beaucoup n'abordent plus quand ça fait longtemps qu'ils courent, et aussi des vraies questions donc de débutants. Et je trouve que Caroline est pour ça un modèle pour beaucoup de personnes qui peuvent se dire qu'elles ont envie de faire comme elle, car beaucoup de personnes vont se reconnaître bien plus en elle que dans des champions ou des coureurs qui courent depuis très longtemps et depuis leur enfance. Et je le dis, nous avons besoin de modèles comme Caroline pour que plus de personnes apprécient à leur tour le bonheur de courir et se disent que c'est possible de se lancer dans des défis sportifs, que ce soit de courir quelques kilomètres ou de courir un marathon comme le prépare en ce moment Caroline. Ensemble, nous allons donc parler de son parcours de coureuse, pourquoi et comment elle a débuté. Nous allons parler aussi de sa blessure qui l'a ralentie pendant de nombreux mois. Nous allons parler d'Instagram et pourquoi elle partage ses aventures dans des réels, comment lui viennent d'ailleurs ses idées de vidéos pour ses réels. On a parlé aussi des courses qu'elle prépare, les questions qu'elle se pose, ses projets sportifs aussi qui dépassent la course. Vous allez même entendre qu'on a parlé de vélo et puis aussi ce qu'elle a envie de faire ensuite dans les années qui viennent. Allez, c'est parti. Bonjour Caroline.
Salut.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci de m'accueillir sur ton podcast.
Écoute, c'est avec joie parce que moi je te vois courir, je suis un peu envieux de temps en temps parce que tu habites dans un coin quand même qui me fait bien envie. Ouais, faut le dire, hein. Moi c'est mon petit rêve, tu sais, j'ai un rêve dans ma vie, c'est de devenir un vieillard galopant mais aussi un vieillard surfeur. Alors, Okay. Toi là où t'es placé, je me dis, il y a à la fois pour galoper et pour surfer. Mais bon, bref, écoute, hein, moi je suis en Auvergne, on ne surfe pas grand-chose aujourd'hui. Tu vois, hein, tranquillement. Et écoute, je te vois galoper, je te vois faire tes sorties et tout. Et puis je vois aussi toutes les personnes avec lesquelles, qui te suivent et tout. J'ai regardé tes stats sur tes réels et tout, j'ai dit, oh là là, mais ça grimpe à une vitesse. Et j'avais vraiment envie de discuter avec toi. Et vraiment, j'ai dit, mais il faut que je l'invite. Parce que je pense que ce que tu fais, comment tu fais? Ça doit aider plein de gens. Tu dois recevoir plein de messages de gens qui te disent « Ah, oh, c'est trop cool, tu me donnes envie de faire pareil, etc. »
Ouais, je reçois beaucoup de messages qui vont un peu en ce sens, qui me disent que je motive beaucoup et que parfois c'est un terme que je trouve un peu, pas dérangeant, mais c'est un peu le syndrome de l'imposteur quand les gens me disent « Tu m'inspires » alors que j'ai pas la sensation, moi, de faire quelque chose d'inaccessible. Et finalement, en fait, je me rends compte quand même, plus j'avance dans la course à pied, que de rester discipliné, c'est pas forcément évident. Donc c'est cool de pouvoir donner de la motivation.
Il y a un truc que alors j'ai un peu fouillé et tout, ça fait pas très longtemps que tu cours.
Non, c'est récent, ça fait un an et demi, et sur cette année et demie, j'ai été blessée 7 mois. Donc en fait, ça fait peu de temps, je suis débutante.
T'es une débutante. Ouais. Et je me dis, il n'y en a pas quand même qui râlent un peu. Tu ne dois pas recevoir des fois des messages un peu de gens qui sont un peu jaloux, un peu aigris. Tu sais, ceux qui courent depuis longtemps, qui disent, mais comment ça se fait? Elle est suivie par tant de gens, il y a tant de gens qui la suivent, qui sont et tout. Et non, tu n'as pas ce genre de message de temps en temps?
Bah, j'ai quelques messages qui peuvent être un peu pas sympas sur des réels. Quand il y a des réels qui ont une grande portée, forcément, j'ai une petite part de personnes qui me critiquent, mais c'est vraiment léger par rapport au nombre de messages positifs que je reçois. Et puis voilà, la course, ça m'aide aussi à me dire que je m'en fiche. Moi, je me dis que je progresse à mon rythme, j'avance. Et puis voilà, mais si ça peut arriver, des messages du type à ce rythme-là, c'est de la marche, voilà, des choses comme ça. Mais c'est pas très grave en soi.
tout le monde les a eu. Enfin, tout le monde. Et les femmes, vous les avez plus que les hommes, franchement. Hein, parce que je pense que vous en prenez plus par la tête que nous. Ouais, ça veut pas dire qu'on n'en prend pas. Hein. Moi, tu sais, on m'a dit que j'avais un gros ventre à un moment donné. On m'a dit, avec tout ce que tu cours, tu devrais être plus belle que ça. C'est les reliquats de mon côté. On a tous ce côté-là et on a eu des messages pas sympas de temps en temps. Ça peut arriver. Mais n'empêche que moi, quand je regarde, enfin, tu vois, quelqu'un qui débute il y a un an et demi, on passe sur les 7 mois de blessure et tout, qui court comme ça, qui se lance des défis, etc., qui le fait avec un grand sourire, qui le fait avec un air totalement normal, sans avoir un truc qui pète dans tous les sens, tout. Je me dis, ça, tu as plein de gens qui doivent se dire, ah, oh, mais j'ai envie de le faire, je peux le faire. Si elle le fait, je dois pouvoir le faire aussi. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, bien sûr. Mais c'est cool. Je me dis si ça peut motiver des gens à aller courir et puis du coup à se rencontrer aussi, parce que la course, moi en tout cas, ça a été une réelle rencontre de moi-même et ça m'a ouvert des portes de plein de choses dans mon psychique. Donc, si je peux aider d'autres personnes à accéder à ça, c'est génial.
Ouais. Tu dis que ça ouvre des portes, ça fait des rencontres. Par contre, je te vois souvent toute seule. Tu cours en groupe ou tu cours toute seule en fait?
Non, il m'arrive de courir avec des personnes de mon entourage. J'ai 2-3 personnes qui courent régulièrement avec moi. J'ai testé un cours d'athlé en club et ça ne m'a pas vraiment plu. Du coup, peut-être que ce n'était pas la bonne séance, peut-être que ce n'était pas le bon club, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ce moment de course à pied, je l'aime aussi seule. J'aime pouvoir le partager quand j'en ai envie. Mais il y a des fois, j'ai envie d'aller courir seule, en fait. Ça me fait du bien.
Mais je te comprends, moi, c'est mon moment de détente, enfin, hors du monde. Alors moi, je suis un introverti. Alors tu sais, je me dis, c'est mon petit moment à moi. Toi, je sais pas si c'est un trop ou extra, mais moi, tu sais, c'est mon moment à moi. Il y a cette espèce de bulle, hein, et je coupe en plus les notifications au maximum, etc., pour vraiment avoir ma bulle. Et les gens me disent, tu t'ennuies pas des fois et tout. Et ça, tu sais, tu as dû peut-être avoir cette question-là, parce que là, tu prépares un marathon.
Ouais.
Donc, les séances, elles s'allongent. Hein, ouais. T'as pas des gens qui disent ouais mais tu cours, c'est pas ennuyeux, pourquoi tu fais ça, ça, tu vois ce genre de remarques qu'on a souvent de gens, parce que je sais pas quel est ton entourage, mais on va en discuter, mais qui peut-être comprennent pas tout à fait ce qui se passe chez toi par partir de là, de mettre à courir comme ça en fait.
Bah, pour le coup j'ai de la chance parce que j'ai pas mal de personnes qui courent plutôt des footings, hein, qui sont peut-être moins investis que moi dans la course à pied. Donc, j'ai pas ce type de questions vraiment autour de moi. Il y en a clairement qui aiment pas courir et qui me disent je comprends pas juste le fait d'aller courir. Mais tu vois, cet ennui, je trouve parfois, il m'arrive de m'ennuyer sur une sortie longue et de me dire bon, c'est un peu long là. Mais en fait, je trouve qu'il est bon cet ennui aussi. Parce que réussir à dépasser ça et puis on se retrouve aussi face à nos pensées, face à plein de choses. Donc, il y a tout un truc qui se passe en fait, et c'est toute cette émulsion dans ma tête que j'aime bien en fait. Et cet ennui aussi, je l'aime bien parfois, de me dire bah, je suis allée au bout de mon ennui, et en fait je suis arrivée au bout de ma séance et je l'ai faite quoi, en essayant de ne pas la subir, c'est ça.
Ouais, c'est un bon truc, même si parfois il y en a qui sont plus durs que d'autres, hein.
Ouais, clairement, il y en a qui sont franchement difficiles.
Bon, et attends, on enregistre le 8 janvier, tu m'as fait rire sur ton réel, hein. Sortie longue post-soirée, c'est un peu compliqué.
Ah, ouais, un peu compliqué. Ah, ouais. Je ne le conseille pas, on va dire.
Mais tu sais que j'ai trouvé ça vachement top que t'en parles, en fait. Et la question, parce que ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai vu passer le message ce matin sur Fred. Moi, j'appelle Fred, hein, tu vois. Et en disant, préparation marathon et alcool, je peux comment t'as tourné, qu'est-ce que vous en pensez ou je sais pas quoi. Et c'est juste après que j'ai vu ton réel. Alors, je sais pas si c'était l'ordre chez moi ou si c'est l'ordre vraiment, etc. Mais c'est une question qu'il y a plein de gens, puis toi, dans Sport Nutrition, on en parle un petit peu de ce sujet-là. C'est une question qui, finalement, il y a plein de gens qui se la posent, mais il y a plein de gens qui ne l'abordent jamais, ce truc-là, en fait, tu vois. Et toi, tu y vas, mais vraiment franco, j'ai envie de dire, sur le coup, mais comme plein de sujets, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de questions que, alors, ceux qui comptent depuis longtemps, ils auront fini par résoudre le truc, hein. Mais il y a plein de gens qui s'y mettent, qui se disent, oh, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça et tout? Et toi, hop, t'arrives, super franco et tout, et puis tu montres en fait comment ça se passe. Tu fais comme ça, nature, enfin, les réels que tu fais là, tu les calcules à l'avance, comment ça te vient ces idées-là en fait?
Bah, rarement, justement, quand j'ai commencé mon compte Insta, j'ai des personnes qui m'ont dit, il faut que tu prépares à l'avance tes sujets, etc. Ben, je trouve que ça enlève tout le naturel de mes courses. Et puis d'ailleurs, quand je vais courir, je sais jamais ce qui va se passer. Donc, il peut m'arriver plein de choses. Et je réfléchis à mon réel. Pendant que je cours, je prends des choses en vidéo et puis après, j'en fais quelque chose. Mais c'est pas forcément toujours facile de poster des choses. Par exemple, le réel sur l'alcool, je l'ai fait. Et puis pendant une demi-heure, j'ai pas appuyé sur partager parce que je me suis dit oh là là, mais c'est un sujet qui est pas abordé en fait. Comme le sujet quand je me suis montrée à moitié en train de vomir, c'est pareil. Je me suis dit ah mais encore une fois. Mais en fait, je pense qu'il faut juste parler de tout naturellement puisque on se ressemble tous plus ou moins. On a tous des difficultés. Certains les ont déjà eues comme tu dis, et les ont plus et d'autres les auront peut-être plus tard. Et généralement, je me rends compte que quand je parle de quelque chose que j'ai hésité de poster un réel, par exemple, j'ai souvent des personnes derrière qui me disent « trop bien, je me sens moins seule ». Et moi aussi, du coup, je me dis « moi aussi, je me sens moins seule, mais personne ne le sait ». Donc c'est cool. C'est un partage, en fait.
Tu sais que mon réel qui a le plus de succès, quand même, et je dois le dire, hein, sur mon compte Instagram, c'est le réel dont je dis comment on fait pour faire quelqu'un dans les bois quand on a une envie subite et qu'on prépare un trail et qu'on est à 12 bandes de la maison. C'est un truc genre 250 000 ou 200 000 vues, un truc comme ça, qui a été fait dans la première atout. Depuis, j'essaye de me dire, mais comment je peux le remplacer? Alors ça, c'est pas comme sur YouTube où il y a le classement, tu sais, par ordre, où il y aura le premier. Je l'ai pas épinglé, mais j'ai eu tellement de réactions sur ces questions-là, et j'ai vu là des sujets d'autres personnes qui l'abordaient récemment. On l'a tous vu, on a vu que ça arrive à des grands champions, que ça arrive à plein de gens. Et puis quand tu discutes en club, tu te rends compte que, tu sais, moi, je me sentais un peu bête des fois sur certains trucs. Et puis t'as des discussions de club avec un gars qui court beaucoup plus vite, qui dit, ouais, ma séance s'est mal passée l'autre jour, j'étais dans les bois et tout, je sais pas comment faire, si je devais m'arrêter, comment je devais faire, etc. Dit, ah ouais, je savais pas, tu vois, et tout. Et donc, ce qui est là où je te rejoins, c'est qu'en fait, il y a plein de sujets, là, on n'en parle pas trop, où les gens le gardent un petit peu pour eux. Et alors qu'en fait, ça, c'est important pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde, un jour, va avoir un truc, envie de vomir, mal au ventre, peut-être un lendemain de soirée, un truc fêté. J'ai eu quoi, moi, tu sais, les sorties aussi après un repas de famille, tu sais, un peu gonflé, etc.
C'est hyper lourd.
Et tout le monde a ça, c'est la vie de coureur, en fait. Et il y en a plein qui n'en parlent pas. Alors, je pense que une fois que tu l'as vécu, tu dis, je sais que ça arrive. Il y en a plein qui débutent et tout, peut-être qu'ils n'osent pas en parler, mais il faut le dire, ça arrive, tout ce genre de truc arrive à tout le monde.
Ouais, après, c'est vrai que moi, j'essaie comme je te disais, j'essaie de raconter mes courses telles qu'elles sont. Et parfois, c'est moins rose, donc on le raconte aussi, quoi. Et puis, j'ai pas envie de me donner une image sur les réseaux qui serait pas ce que je suis, et d'aller raconter que j'étais toute fraîche sur ma sortie alors que j'avais une gueule de bois monumentale, quoi.
Donc, écoute, alors moi je trouve qu'en plein dry January, en plus, c'est en plus un peu. Et sur le coup, je me suis dit, elle provoque.
C'est un sacré toupet, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est une vraie question. Mais comme d'autres qui se posent, la nutrition, enfin voilà, où on sait pas, je suis débutante, donc je sais. C'est des choses qui se règlent, je pense. On apprend petit à petit, et on fait tous des erreurs. J'ai fait ma sortie en gueule de bois, mais j'ai quand même attendu le soir pour me sentir un petit peu mieux et que ce soit pas contre-productif, quoi.
Et puis tu as fait ta sortie quand même, et puis on voit à la fin que tu es mieux qu'au début.
Exactement, ouais. J'avais plus mal à la tête.
Bon, alors avec tout ça, quand même, je t'ai pas demandé de poser une question essentielle, mais c'est pourquoi tu t'es mise à courir?
Je me suis mise à courir parce que j'avais quitté mon travail d'agent immobilier et je me suis retrouvée dans une non-activité totale et je suis allée courir une fois, deux fois et je sais pas ce qui s'est passé plus à ce moment-là que d'autres fois où j'avais peut-être essayé de faire des petits footings, Mais j'ai adoré, quoi, et j'y allais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Enfin, voilà, j'y allais trop, quoi, même. Et puis, en fait, petit à petit, j'ai compris, j'ai appris à doser un petit peu mieux, je me suis renseignée, et puis voilà, quoi. Après, j'étais piquée et c'est parti. Mais à la base, c'était un peu sur un malentendu, quoi.
Comme quoi, sur un malentendu, il y en a qui peuvent conclure, il y en a qui peuvent courir, hein, chacun son truc. Et le compte Instagram, tu le lances au moment où tu commences à courir ou tu avais déjà un compte Instagram? C'est quelle idée tu as eue en fait quand tu as lancé ton compte Instagram?
Ben, j'ai lancé mon compte Instagram parce que du coup, ben, la course est devenue vraiment une passion et j'en parlais tout le temps. Et c'est vrai que dans mon entourage, je me rendais compte qu'on m'écoutait, hein, mais que je devenais un petit peu relou, quoi, parce que je disais, ouais, kilomètre 4, il m'est arrivé ça, voilà, kilomètre 5, et puis là, je reprends mon souffle. Et puis, je voyais que bon, j'avais pas l'attention que je voulais. Et puis, j'ai découvert que sur Insta, il y avait une communauté de runners énorme, en fait. Et du coup, j'ai lancé mon compte en fait, pour raconter mes courses. Donc, au début, je prenais juste une photo et je racontais ma course presque en détail, quoi. Et il y a des personnes qui m'ont rejoint, on a commencé à échanger, et puis voilà, ça a grossi, et puis après, ça a grossi de plus en plus, et puis c'est trop cool, je vis des nouvelles expériences.
Il faut le dire parce que maintenant, alors aujourd'hui on enregistre à 23 000, mais il me semblait qu'il y a 3 jours, tu n'avais que 20 000 en fait. Pour ça, j'ai l'impression que ça. C'est moi, c'est l'impression où. Après, j'ai regardé, t'as des réels qui partent vraiment fort, quoi. Hein, si, ça fuse vraiment dans tous les sens. Ce qui montre d'ailleurs pour ceux qui disent, ouais, sur Instagram, on a du mal à décoller, etc. Bah non, la preuve, c'est qu'il y a des comptes qui marchent très fort. Tu le dis, tu fais. T'as pas de charte éditoriale, t'as pas de plan, t'as pas de trucs comme ça. Au fur et à mesure, en fait, tu documentes vraiment. L'idée, c'est de documenter ce que tu fais, en fait.
Ouais, bah dans mes notes là, dans mon téléphone, j'ai une note qui s'appelle idées réelles et quand il y a des choses qui me passent dans la tête, je les mets quand c'est des petites vidéos, par exemple humoristiques ou quoi. Après, quand je fais des espèces de petits vlogs sur mes sorties, là c'est vraiment je filme et à la fin je vois quoi ce que j'en fais. Et parfois c'est compliqué d'ailleurs parce que parfois je vois pas du tout ce que je peux en faire, mais j'essaie d'en tirer une petite histoire quoi et de romancer un peu ma sortie.
Bon, et l'idée en fait que tu avais, enfin quand tu lances ça, donc tu dis je partage, tu t'es fait des nouveaux amis grâce à au running et tout, grâce à ton compte Instagram, enfin amis, des gens à qui tu vois qui te donnent des conseils, qui échangent, mais bienveillants, tu sais, mais réguliers quoi, tu sais, pas juste un conseil qui passe par-ci en commentaire quoi.
Ouais, bah il y a des personnes au tout début en fait comme j'y connaissais vraiment rien du tout, je me souviens d'une fois où je voyais partout endurance fondamentale et je me dis mais c'est quoi endurance fondamentale? Du coup, j'étais allée parler à un abonné du coup mais moi-même j'étais abonnée à cette personne en disant est-ce que tu peux me dire ce que c'est l'endurance fondamentale? Et donc au début, c'était vraiment ça et on m'expliquait des choses, etc. Donc j'ai appris beaucoup aussi de l'expérience des autres. Et puis il y a des personnes que j'ai rencontrées du coup sur des courses. Donc il y a des personnes que je connais aujourd'hui, que je recroise. Et c'est cool. Il y a plusieurs personnes, ouais, comme ça.
T'as mis combien de temps tu dis bon, attends, 1 an et demi, 7 mois de blessure. Au départ, quand tu commences à courir comme ça, à quel moment tu te dis je vais commencer à faire des courses? C'est un truc qui te vient rapidement, t'as une idée derrière la tête assez rapidement ou parce qu'il y en a qui mettent plein de temps avant de faire une course.
Non, en fait, ma première course, je l'ai gagnée sur un concours Instagram. C'est ça qui m'a plu fait. C'était les 10 km Adidas. Et je l'ai gagnée. Donc, j'étais trop contente. Et puis d'ailleurs, j'ai bien cru que j'allais pas la faire parce que j'avais eu super mal au genou. Et donc, j'étais allée voir le médecin. Il m'avait dit, non, c'est bon, tu peux la faire. Donc, voilà. Et après, j'ai fait la course et tout le monde me disait, mais tu vas voir, tu vas tomber accro quand tu verras les ambiances de la course. Et il s'était pas trompé, quoi. Et quand j'ai vécu ça, après, j'en ai refait plusieurs. Et notamment la course où je me suis blessée, la Parisienne. Et en fait, justement, j'étais dans quelque chose au départ où je voulais faire le plus de courses possible. Et puis ma blessure, elle m'a vraiment remis les idées en place sur les courses. Et maintenant, je sélectionne des courses qui m'intéressent et j'essaie de faire plus qualitatif que quantitatif.
Ouais. Et au moment de ta blessure, t'as pas peur que ça arrête quelque chose quand tu t'es blessé? Parce que ça faisait pas longtemps que tu courais finalement.
Ben, ça me manquait beaucoup. J'ai essayé de me recycler sur le renforcement musculaire, mais c'était pas hyper régulier, quoi. Et non, j'avais qu'une hâte, c'était de recourir, quoi. Et justement, je l'ai vu comme un nouveau défi, puisque c'était la première fois de ma vie. En plus, je me suis jamais vraiment blessée dans ma vie. C'était la première fois de ma vie où je perdais l'usage de la marche, quoi. Et ça m'a mis vraiment un coup au moral. Je me disais, déjà, je me suis rendu compte que c'était hyper précieux de pouvoir courir, tout simplement. Et ouais, ça m'a remis les idées en place. Et après, ça a été un nouveau défi, du coup, de pouvoir recourir sans douleur. Et ça a mis beaucoup de temps aussi.
Tu peux juste nous rappeler ta blessure, en fait, parce que bon, moi, je ne me rappelle plus du tout, je suis désolé, mais...
Non, pas de souci. Je suis tombée, du coup, sur la Parisienne, devant le Louvre, je tiens à le préciser, puisque c'est un petit peu plus sympa. Et du coup, j'ai eu un œdème osseux. Donc, en fait, c'est comme un bleu sur l'os.
Aïe, ouais.
Voilà, donc c'est plutôt douloureux. Et puis, ça m'a empêché de marcher. Et surtout, il n'y a vraiment pas beaucoup de remède miracle, en fait. Donc, au départ, j'avais une attelle. Et puis ensuite, on m'a dit que un autre médecin m'a dit que l'attelle, ce n'était pas forcément ce qu'il fallait avoir. Donc, je n'avais plus rien. Et puis, le premier médecin m'avait dit que j'allais arrêter 2 mois. Donc, au bout de 4 mois, je me suis dit qu'il faut quand même que je fasse quelque chose. Et puis, j'ai vu un médecin et j'ai fait de la mésothérapie. Et ça m'a beaucoup aidé.
Je te confirme que c'est quand même beaucoup plus classe de se casser la gueule devant le Louvre, parce que moi, mon anecdote, quand je me casse la gueule et que je me fais mal, c'est en sortant les poubelles. Il y a quelques années. Premier week-end de l'année, et en plus, et c'était l'anniversaire là, ce week-end. Donc hier, j'ai fait super gaffe quand j'ai sorti mes poubelles, parce que je dis, oulala, ce qui m'est arrivé il y a 6 ans, tu vois, un truc 6, 7 ans maintenant. Et même j'attends, tu vois, avec la pluie, un peu de verglas qui arrive et tout. Et alors ce matin, je dis, ouais, là, attends, méfie-toi. Donc, je te confirme, c'est vachement plus classe quand même. Le Louvre et tout, tu vois. Parce que, alors, moi, des fois, maintenant, je raconte avec un grand sourire, tu vois. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, putain, c'est couillon, tu vois, pour une fois qu'en plus, je voulais bien ranger mon bureau, tu vois, pour que ça soit nickel. Donc, cette année, je me suis méfié. Et donc, finalement, tu dis, t'as cette blessure qui traîne comme ça, etc. La reprise après, t'as réussi à reprendre au bout de combien de temps, finalement?
J'ai repris la course au bout de 7 mois. Et j'ai suivi un plan d'entraînement du coup de reprise après blessure qui alternait en fait marche et course. Donc la première séance, c'était 3 minutes de marche, 3 minutes de course en alternant une minute. Donc je me suis dit ça va être méga long et il durait 2 mois de mémoire le programme. Et puis en fait, il m'a appris à temporiser quoi ce programme. Il m'a appris à... Enfin, j'ai beaucoup appris et je suis finalement contente de m'être blessée parce que j'ai appris à être plus indulgente vis-à-vis de moi-même, mais vis-à-vis des autres aussi. Ouais. Parce que du coup, si je croise quelqu'un qui marche, qui court, ben, il peut peut-être passer plein de choses dans sa vie. Voilà. Et puis j'ai remis en fait toute ma vision de la course à pied en question. J'ai compris aussi... que c'était important de faire du renforcement musculaire, même si je plaide coupable, je n'en fais pas suffisamment. Mais voilà, il y a un mécanisme qui s'est mis en place dans ma tête différent, en fait. Et j'ai une approche beaucoup plus douce, je pense, sur ma pratique.
Ouais, comme quoi, tu vois, ça me prouve une autre fois, moi je l'ai vécu après plusieurs blessures, en fait la blessure elle nous apprend des choses, c'est vrai hein, sur le coup, moi ma blessure sur mon marathon, alors je touche du bois pour toi, je croise tout ce que je peux.
Ouais, moi aussi pour toi.
je veux pas te porter malchance pour toi. Hein. Mais c'est vrai que quand je prépare mon premier marathon, je me blesse. Et en fait, je me suis rendu compte de tout ce que ça m'avait apporté, cette blessure. Mais même, tu vois, dans ma manière de courir, j'ai découvert les programmes d'alternance course et marche, les histoires de la vitesse, du renforcement, du travail des pieds. Enfin, des trucs que j'avais jamais vus au départ, mais je courais pas depuis longtemps, tu vois. Enfin, depuis un an et demi. Et c'est vrai qu'on apprend plein de trucs. Et puis on se dit, finalement, on mesure la chance aussi. Tu disais tout à l'heure d'être capable de courir et d'être capable de le faire régulièrement.
Ouais, et puis on se blesse vite, quoi. Et puis je pense que c'est un passage presque obligatoire, quoi. J'ai l'impression que tout le monde se blesse, de toute façon, plus ou moins grosse blessure, hein, mais au moins une fois. Et puis on sort tous un peu grandi, quoi, de ça. En tout cas, c'est ce que je vois sur les réseaux aussi des... Sur le coup, on est très très frustré, mais derrière, c'est un peu le message global, c'est on revient plus fort et plus fort psychiquement, et puis j'ai l'impression aussi physiquement après.
Statistiquement, je crois que c'est 40% des coureurs se blessent chaque année. Hein. Enfin, ou chaque année, il y a 40% des
Ah
coureurs
ouais,
qui se
c'est
blessent.
énorme.
On va tout mettre dans ce sens-là. Parce qu'une fois qu'on l'a fait une fois. Non, mais après, en plus, il y a blessure et blessure. C'est vrai que la chute, c'est un cas particulier. Enfin, moi, je trouve que c'est un cas particulier parce que, tu vois, moi, sur le marathon, c'était finalement trop. C'était le surentraînement. Tu vois, de trop d'entraînement
Ouais.
par rapport à la fatigue, au repos et tout. Alors que l'entorse, tu vois, je mets le pied dans un trou. Bon, je me dis un peu de fatigue, mais il y a aussi un coup de pas de chance quand tu te casses la gueule. Ah, ça fait partie aussi du risque du
Ouais.
métier. Et ça peut faire rager, mais c'est comme ça. Et quand tu apprends aussi, tu as des trucs, tous ceux qui ont des blessures qui sont plutôt de la fatigue, du surentraînement et tout, ça t'apprend aussi encore plus à temporiser, moi, je trouve, tu vois, à revoir d'autres choses. Donc, faut pas se souhaiter, mais je trouve qu'il faut en avoir un côté de voir le truc positif, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va revenir et qu'est-ce qu'on apprend, quoi.
Ouais, et puis pendant cette période de blessure aussi, bah, d'essayer de relativiser et de voir aussi les côtés bénéfiques. Enfin, là, de toute façon, on va se remettre à courir, donc on peut réfléchir à sa pratique déjà pendant cette période-là et essayer en tout cas de pas trop broyer du noir, quoi.
Ouais. T'étais persuadé que t'allais arriver à courir toi après ta blessure, toi. Tu dis ouais, après la blessure, je vais pouvoir recourir.
Ouais, bah, y a des moments forcément, je me suis dit, mais ça va jamais s'arrêter, puisque à la base, on m'avait vendu 2 mois d'arrêt, quoi.
Ouais.
Donc, au bout de 4, 5 mois, je me dis, c'est pas possible. Et j'ai déprimé et tout. Mais je savais que j'allais remarcher, que j'allais recourir. Mais je ne savais pas, en tout cas, vu que c'était la première fois, je savais pas comment ça allait se concrétiser. Et c'est quand on m'a donné le go pour recourir, où là, je me suis intéressée au plan d'entraînement, à comment je vais reprendre et donc ça a été une nouvelle découverte bah, intéressante, quoi.
Alors, j'ai une question. Est-ce que tu te rappelles de ta toute première séance de course, la première fois que tu as couru?
Non. Non, parce que j'avais déjà fait des footings avant. Donc je sais qu'à un moment avec une amie, on sortait courir. Donc c'était pas super, mais pour le coup, ça rejoint un peu le réel d'hier, c'est qu'on sortait. On sortait le dimanche après être sorti le samedi soir, en fait. Et on faisait des 10 km au bois de Verrières régulièrement. Mais c'était que ça, quoi. Il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de vision de course derrière ou quoi. Et on faisait ça le matin, on se retrouvait après avoir peu dormi souvent et on courait. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt pour moi mes premiers souvenirs de course. Mais après, le tout premier, là, quand j'ai commencé il y a 1 an et demi, non, je ne me souviens pas.
Et est-ce que tu te rappelles du premier jour que tu as couru après ta blessure?
Ah bah ça oui ouais, c'était le 3 fois 1 minute, 1 minute.
Ouais.
Bah c'était court quoi. Je me souviens être allée au parc de Sceaux, avoir bah du coup couru 3 minutes, marché 3 minutes, et je me suis dit ça va être super long. Mais voilà, mais je me suis acharnée quoi, je suis retournée. Mais ça allait du coup, ce qui me tenait un peu positivement, c'est que du coup je crois que c'était 5 ou 6 sorties par semaine, vu que c'était assez
Ouais.
court. Donc du coup, au moins tous les jours, j'avais ma petite satisfaction, quoi. Donc
C'est ouais, je confirme, moi je suis en plein dedans, c'est pour ça que je rigole, mais c'est vrai que moi j'avais 6 fois 1 minute ma première sortie.
voilà. Ah, ok.
Et je me rappelle ce jour-là parce que j'étais parti, je suis revenu à la maison et j'ai dit, j'ai même pas transpiré. Tu sais, j'aurais pu y
Ouais.
aller, j'avais l'impression que j'aurais pu y aller. Alors, tu vois, c'était un jour, c'est en octobre, tu vois, donc il faisait pas spécialement froid, pas spécialement chaud. J'ai l'impression, je suis revenu sur un, j'ai dit, mais j'ai même pas l'impression d'avoir fait quelque chose comme activité.
Ouais.
Alors, sans le coup, c'est vachement frustrant, tu sais. Tu te dis, oh, attends, avant, j'étais à fond, je préparais mon marathon, je faisais 40 km dans la semaine ou 50 km dans la semaine. Et d'un coup, je me retrouve 6 fois 1 minute et j'ai même pas transpiré. Bon, après, ça remonte, ça revient et tout. Mais pour ceux qui sont dans cette phase-là, je pense qu'il faut s'en rappeler parce que c'est vrai que ouais, ça fait relativiser, mais ça fait progresser. On redécouvre aussi que, je sais pas, peut-être je sais pas si tu comment tu vois les choses, mais on redevient plus lent ou c'est plus compliqué ou le souffle, le cœur, il remonte tout de suite très vite. On se dit, mais
Ouais.
qu'est-ce que je fais? Où j'en suis? J'ai tout perdu. T'as pas eu ce sentiment-là par
Ouais.
moment?
Si, mais moi, surtout, ce que j'avais comme sentiment, c'était. En fait, j'étais hyper attentive à la moindre douleur. Et j'avais cette peur, du coup, de me refaire plus mal. Et je me souviens que dès que j'avais un tout petit peu mal au genou, je me disais, oh, c'est la cata, ça va repartir, quoi. Et ça, c'était la sensation la plus présente. Et ça a mis longtemps à vraiment. se retirer parce que forcément que j'avais c'était pas une douleur mais j'avais une sensation gênante dans le genou. Puis forcément ma jambe avait perdu tous ses muscles donc j'avais un déséquilibre énorme. Et quand je regarde les vidéos justement d'après blessure, je le vois en fait. Je tanguais un peu parce que j'étais déséquilibrée donc j'ai fait un peu de séance avec un coach à la salle de sport pour me remuscler et puis ça a fait du bien quoi. Mais c'était
Moi,
surtout la peur de
encore.
se reblesser. Tu tangues encore.
Moi, je tangue encore. je sais pas. Non, mais c'est vrai. Et parce que cet été, on l'a encore constaté. Et même ma kiné, tu vois, j'ai fait la kiné il y a pas longtemps. Elle a encore constaté que ma jambe opérée il y a 2 ans. Et j'étais encore en déficit d'un côté. Ouais. Mais en fait, elle le voit. Alors, c'est vrai que ça commence à moins se voir, mais même en ayant couru 850 jours d'affilée, j'ai toujours des équilibres qu'elle a depuis. Elle m'a dit effectivement c'est très long. Alors pourquoi c'est aussi long? Alors je dis ouais, mais pourtant on a fait des exercices que sur une jambe, tu vois, des trucs comme ça. Mais moi je continue à tanguer. C'est mon truc, je tangue.
Ouais, il y a un déséquilibre qui est resté.
Bref, bon, c'est comme ça. On a tous. Et de toute façon, je sais pas si t'as remarqué, mais on a tous nos manières de courir. Tout le monde, quand tu croises des gens, ils ont. C'est un monde, si tu l'observes, moi je passe mon temps à observer les gens, à les regarder et tout. Il y a tellement de manières de courir, tellement de gens qui courent différemment. J'ai fait un réel un jour, une fois, comme ça, en me disant, mais il y a tellement de gens, je m'étais mis sur le bord de l'Allier, là, à Vichy. Je regardais les gens courir, je dis, j'en ai pas vu un courir pareil. Mais pas un pareil. Ou alors, quand on voit deux courir ensemble et qui courent vraiment pareil, tu dis, ah ben eux, ils sont différents, ils ont un truc différent. Mais c'est vrai, enfin, tout le monde court différemment et pourtant, hein, à le début d'une course, on arrive tous au même endroit à l'arrivée.
Ouais, bah oui. Mais justement, je me faisais la réflexion il y a quelques jours parce que je tombais sur une vidéo d'un Américain qui disait en gros, faut pas courir comme ça, il faut courir comme ça, en montrant, je sais plus, les bras ou les jambes, je sais pas. Et je me disais, mais en fait, enfin, on court, quoi. Après, je pense qu'effectivement, techniquement, il y a des meilleures manières de courir et voilà. Mais en tout cas, moi, à mon niveau, je suis amateur et j'en suis pas à ce type de détails, en tout cas. Enfin, je vise pas des sas élites, quoi. Donc, mais ouais, chacun a sa manière de courir et puis c'est cool. Et puis, si tout le monde va courir, franchement, c'est bien. Même si on n'a pas la même manière de courir.
Ouais. Et je crois qu'il faut dire un truc aux gens, c'est que ceux qui s'intéressent et qui veulent laisser de progresser, quand on débute, de toute façon, le seul truc, c'est courir. D'une manière ou d'une autre. Même en faisant de l'alternance course-marche et tout, moi, je suis un grand fervent de l'alternance course-marche, parce que j'ai même fait des courses en alternance course-marche. Tu vois, mon dernier 10 km, j'ai fait en alternance course-marche. Ouais. Et je le dis, hein, parce qu'il y en a qui m'ont dit, oui, mais tu cours en mode pépère, des fois, tu vas courir 10 minutes en mode pépère et tout. J'ai dit, oui, mais je cours. Et j'ai beaucoup progressé en courant aussi de cette manière-là. Alors maintenant, je cherche les gens qui courent doucement, tu vois, pour avoir des trucs. Et c'est vrai que dans les champions, on voit des gens qui courent très doucement, des fois, alors qui courent très vite en capacité. Et donc, on le voit. Et puis, il y a des gens qui, t'as l'impression qu'ils courent vite. Et puis, en fait, tu les vois un peu, qui, des fois, s'usent, se fatiguent. Et je crois que, on disait un petit peu tout à l'heure, hein, c'est que la blessure nous montre aussi que l'important, c'est surtout d'arriver à pas se blesser pour continuer à progresser. Et ça fait partie des éléments. Et je sais pas si t'as mis en place des stratégies, justement, pour te méfier, tu vois, tu disais au début, tu courais tout le temps. Tu sais, t'avais toujours envie de courir, faire plein de courses, etc. Comment tu maintenant tu dis ouais non je choisis plus mes courses, mais comment tu procèdes pour faire ça, pour doser justement ton effort et les courses que tu veux faire?
Bah, pour le moment, là, j'ai deux courses objectifs cette année. Après, je ferai peut-être des 10 km, mais bah, franchement, c'est au ressenti. C'est vraiment comment je me sens. Je fais mes 4 séances par semaine. J'ai 4 séances par semaine. J'en rajoute pas plus parce que je pense qu'après, ce serait trop. J'aimerais bien, sur la fin de l'année, essayer d'en rajouter une en plus si tout est aligné. Mais ouais, c'est au ressenti. Depuis ma blessure, en fait, je pense que j'arrive mieux à me comprendre et à comprendre mes limites.
Tu dis que tu fais 4 séances par semaine. Tu fais quoi pour donner un peu un ordre d'idée?
Comme séance, du coup, j'ai généralement un footing de 45 minutes, une sortie longue, du coup, le dimanche. J'y vais pas toujours en gueule de bois. Et après, il y a des séances de fractionnés, séances seuil, ça dépend le programme.
Et là, on l'a pas dit, mais tu prépares le marathon de Paris?
Ouais, marathon de Paris, mon premier marathon.
Ton premier marathon. Qu'est-ce qui t'a donné
Ouais.
envie d'aller te frotter au marathon?
Bah, je sais pas pourquoi, mais je suis beaucoup plus attirée par la distance que par la vitesse. Et je suis très attirée d'aller plus loin en fait dans l'effort en fait dans la durée de l'effort, j'ai envie de dire. Et donc c'est la next step après le semi. Donc je me lance sur cette aventure. Et puis c'est vrai que Paris, moi je suis de région parisienne à la base. Du coup c'est déjà le plus gros marathon. Pour moi c'était évident d'aller faire celui de Paris en premier.
T'as une appréhension dessus ou pas du tout?
Non, mais justement, la seule appréhension que je pourrais avoir, c'est est-ce que je vais tenir les temps que j'ai sur mon programme? Mais en soi, c'est pas ce qui est le plus important pour moi. L'important, c'est de le finir. Donc ça m'angoisse pas plus que ça, non. Je sais que je vais aller au bout, en tout cas, si je tombe pas.
Ouais, t'as regardé si ça passait au même endroit, si le pavé était plus gros, si la pavé attaquait.
Faut que je vérifie.
Qu'est-ce que t'estimes pour toi, tu vois, sur les trucs comme ça, quand tu envisages le marathon, t'en as jamais fait. C'est quoi pour toi, tu vois, si les trucs, tu te dis, je dois absolument préparer ça, ou il y a des questions, c'est que tu te poses, parce que tu es débutante,
Ouais.
enfin. Et tu vas vers ce truc-là. T'as des trucs qui tournent en tête. Tu sais, quand tu cours, quand tu fais tes sorties longues, là, des fois, tu réfléchis, tu penses à des choses et tout. T'as des trucs qui tournent en tête en disant, mais des questions que tu peux avoir sur ce marathon.
Ben, j'ai des questions. Moi, mes questions sont plus, par exemple, sur la nutrition. C'est des choses sur lesquelles je suis pas assez renseignée et il va falloir que je me renseigne parce que je pense que sur cette distance, ça devient important. C'est des questions plus, comme je connais pas la distance, puisque je me suis arrêtée au semi-marathon, c'est le plus long que j'ai couru. C'est plus des questions sur comment je vais me sentir. Sur une plus longue distance et c'est en fait cet inconnu. Donc j'ai des questions sur l'inconnu d'après le semi et pour avoir pour m'être un peu renseignée sur les ressentis même des personnes et tout visiblement c'est pas deux semis à la suite on peut pas parler de deux semis à la suite en fait c'est une toute nouvelle épreuve. Donc c'est cet inconnu-là qui me pose question et la deuxième grosse question c'est la nutrition. Pour moi c'est un vaste sujet que je ne gère pas du tout et c'est vraiment une question importante, je pense, à traiter.
Ouais, je vais pas te dire le contraire. Et moi, tu sais, je rajouterai un troisième élément, mais je pense que après, tu l'as peut-être différemment. C'est l'aspect mental aussi, tu sais, de la course, du truc et tout. Moi, je suis tombé dans un piège. C'est le piège du mur, en fait. D'être persuadé que j'allais prendre le mur, parce que tout le monde dit que tu vas prendre le mur un jour ou l'autre, à un moment donné. Et de l'avoir tellement pensé que j'allais le prendre, que j'ai fini par le prendre. Surtout que sur le marathon de Paris, je sais pas comment c'est sur les autres, il y a des petits malins qui s'annoncent, qui disent, ah, on arrive au 30e, faites attention. Puis ceux, ils ont dessiné, il y avait un mur avec des en briques, enfin en polystyrène, tu sais,
Ah
des trucs et tout
ouais.
pour bien le matérialiser. Et psychologiquement, je me demande, tu vois, à quel point le mur n'est pas arrivé psychologiquement avant d'arriver physiquement dans mon corps, tu vois, ce truc-là et tout.
Ouais.
Mais c'est viré après, c'est lié aussi à la nutrition, c'est lié à l'effort, à la vitesse. C'est là où tu vois que c'est pas deux semis l'un derrière l'autre et qu'il y a d'autres trucs qui jouent et tout. Mais je crois que ça fait partie des, tu vois, des maintenant à revoir le truc. Des grands questionnements, tu vois, de comment le gérer, en fait, cet aspect-là. Parce que
Ouais.
c'est vrai qu'en plus, il y a des petits malins qui s'annoncent et tout. Et puis, il y a un autre truc, mais toi, t'es à Paris, tu connais. Moi, il y a un autre truc, c'était les tunnels. Au bout d'un moment, il y a certains tunnels, ils sont
Ouais.
longs. Moi, je
Ouais.
comptais tu sais, les trottinettes qui étaient garées dessous, les trottinettes en libre-service qu'ils avaient laissées dessous. Ah, bah, tiens, on en a mis 10 à cet endroit-là et tout. Je dis, ah, les petits
Ouais.
malins et tout. Parce que je trouvais que c'était ennuyeux, tu vois, au bout d'un moment, les tunnels. Et puis, c'est là où t'as plus ta montre. Tu sais plus si tu vas
Ouais.
rentrer, sortir et tout. Bref, mais après, c'est drôle. Hein, c'est drôle, je
Mais
te
tu
laisserai
vois, moi,
découvrir
les
le truc.
tunnels, j'aime pas du tout les tunnels, mais pas du tout pour la même raison que tout le monde. Moi, je trouve ça hyper oppressant. Parce que la lumière, elle devient très sombre. Il y a toujours, enfin, j'ai l'impression toujours, peut-être que c'est moi dans ma tête qui me fait un film, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui fait du tambour dans les tunnels ou qui hurle. Et ça m'oppresse que ça résonne. Et je n'aime pas du tout l'ambiance de passer dans un tunnel. Donc au final, je pense que je ne me concentre pas sur la difficulté de sa descente, sa remonte. Moi, c'est plus que je trouve ça oppressant, en fait, l'ambiance du tunnel.
Ouais, moi
C'est
je trouve que c'est
bizarre,
tout long.
mais.
Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a un côté, moi c'était le côté un peu long, et le côté c'est de savoir, alors je sais plus lequel c'était en 2019, tu as l'impression de pas en sortir, tu vois, à un moment donné, tu te dis, mais quand est-ce que je sors ce truc et tout? Et puis après, quand tu sors, tu te dis, ah, c'est beau la vue.
Ouais.
Ah, j'ai le droit à voir la vue. Mais c'est vrai, et j'avais eu le même truc, c'est moi j'ai fait les 10 km, alors à l'époque, ça s'appelait l'équipe. Alors après, ça change d'équipementier tous les X années. Hein.
OK.
Et là, ce qui m'avait fait rigoler, c'était les tunnels. Et puis tu sais c'est la remontée des quais aussi j'avais en fait c'est une course que j'ai pas aimée tu vois avec la chaleur avec l'ambiance etc sauf le dernier petit coup de cul avec la remontée des quais pour moi qui fais du trail tu sais je dis ah bah tiens enfin ça monte je peux me relancer
Ouais.
ah, c'est cool ce
Bah, t'as
truc-là
amusé.
ouais je trouve que c'est amusant mais c'est vrai que il y a ce côté-là j'ai l'ai trouvé et je pense que mentalement sur le marathon c'est vrai que il y a cette espèce de gestion du temps, du mur, des ravitaux, des trucs comme ça, tu vois, qui a à gérer, et auquel bah, je pense que voilà, ça fait partie des petits pièges sur lesquels on peut tomber. Voilà, bref. Comment tu.
Ouais.
Alors, tu as dit, tu prépares ça avec 4 sorties. Bon, c'est pas un secret, j'ai vu que tu avais un plan. C'est pas toi qui t'es fait ton plan.
Non, je suis avec Campus Coach pour les plans d'entraînement.
Et.
Donc voilà, j'avais déjà fait ma prépa pour les 20 km de Paris avec eux.
Ouais.
Et j'ai beaucoup progressé, du coup j'ai continué l'aventure pour le marathon.
Ouais. Et tu disais que tu avais fait une séance en club et que ça ne t'a pas plu en fait.
Ouais. Bah, du coup, je m'étais dit ça pourrait être cool d'aller m'inscrire à l'athlétisme. Et en fait, j'ai pas aimé parce que déjà le niveau était très élevé. J'ai eu cette sensation tout de suite. Enfin, moi, l'échauffement à 5,20 du kilomètre pendant 6 kilomètres, déjà, j'étais rincée, quoi. Je suis sortie de là, j'étais dans la séance, elle est finie là. Non, après, on a fait du fractionné et j'ai eu la sensation d'être en fait au milieu d'un groupe et de pas respecter mon niveau et d'aller vraiment beaucoup trop au-dessus de mes capacités. Et justement, dans ma tête, je me suis dit, je vais me blesser à être dans cet environnement-là, en fait, pour courir. Et puis aussi, j'ai aussi réalisé que j'ai la chance de pouvoir courir régulièrement avec des personnes et qu'en fait, je sais qu'il y a des. J'ai eu des retours du coup, puisque j'avais fait un réel là-dessus. Il y a des personnes qui disaient qu'ils adoraient l'athlé parce que justement, ils se retrouvaient avec un groupe, que ça les portait beaucoup. Et en fait, moi, j'ai déjà quand même ça, puisque je cours avec des amis, avec mon copain, régulièrement. Et puis, j'ai pas l'impression d'avoir besoin d'un groupe pour me motiver à aller courir. Donc, j'avais l'impression, en tout cas, que j'allais pouvoir trouver plus de techniques. Et voilà, je suis peut-être pas tombée sur la bonne séance, c'est possible. Mais je me suis dit que je réessayerai un jour.
Ouais. Bon, après le coup de l'échauffement à 5,20, là, trop rapide, ça, je crois que c'est l'un des gros problèmes de plein de clubs et plein de groupes. Hein. Il y a que les clubs, mais il y a plein de groupes et tout. J'ai couru avec des groupes et un jour, il y avait un gars qui disait, ah, dans mon club, on a une règle. C'est de pas courir à plus de 10 km/h à l'échauffement pendant les premiers trucs. Il dit, parce que sinon, les jeunes, ils feront le rythme, on n'arrive pas à les suivre et tout. Et c'est vrai que moi, un jour, j'en ai rigolé, j'ai dit à un gars, je dis, mais tu sais, la séance d'échauffement, j'ai l'impression que c'est ma séance d'entraînement qui a été faite, à l'allure à laquelle elle est faite, j'ai l'impression d'exploser. Et tu sais, je lui avais dit comme ça, je lui ai dit, ouais, mais écoute, on va faire des boucles, on va laisser partir ceux qui vont vite un peu vite, et puis on va faire un truc. Et en fait, il y en avait plein de gens qui avaient le même ressenti, mais des fois, qui n'osent pas le dire, tu vois, et tout. Et des fois, moi, j'ai des messages, je reçois des messages de gens qui disent, oh, putain, mais j'essaie de courir avec les autres, je m'épuise et tout. Et effectivement, quand on est dans ce cadre-là, t'as raison, le risque de dire, c'est peut s'épuiser. Dire, mais je peux me fatiguer, je vais m'épuiser, je tiens pas le rythme. Et puis, je trouve que c'est un peu démoralisant, en fait, aussi. Et parce qu'il y a une espèce de, on se compare toujours un peu et on dit, mais finalement, j'arrive pas à suivre et tout. Alors que pourtant, c'est un vecteur de progrès. Moi qui ai fait 3 ans au club, je peux dire que j'ai quand même beaucoup progressé. Mais bon, bref, c'est vrai. Mais je pense que, y a aussi des clubs, il y a aussi des groupes, il y a peut-être un équilibre à trouver. Et autant j'ai beaucoup validé le club, autant le défaut que tu viens de pointer, je le comprends aussi, parce que j'ai aussi vécu. Et il faut faire attention à ça. Est-ce que tu as des. Tu vois, tu as fait une course de préparation ou pas avant le marathon? Parce que c'est long ta préparation marathon, en fait. Elle est sur combien de temps?
Elle est sur 21 semaines. Je fais une prépa longue, du coup. Du coup, au début, la prépa, elle est plutôt axée sur des séances qui sont courtes, avec plutôt de la vitesse. Voilà, il y a pas mal de fractionnés et j'ai pas mal de footing aussi de 45 minutes. Là, tout le début de la prépa, il y avait sur les 4 séances, il y avait 2 footings de 45 minutes, voire 1 heure. Et là, justement, dans les semaines à venir, je pense dans 2 semaines ou 1 semaine, la prépa, elle va changer et les sorties s'allongent un peu plus et on va rentrer plus dans le vif du sujet.
Et tu as prévu des séances, des courses préparatoires ou finalement tu dis je vais directement jusqu'au marathon comme ça, sans course préparatoire?
Non, pour le moment, je n'ai pas prévu d'autres courses. Peut-être que ça viendra, mais pour le moment, c'est le marathon l'objectif. Donc, je suis concentrée là-dessus et voilà. Et peut-être que je vais faire un petit 10 km. Je verrai ça.
Un petit 10 km comme ça pour se mettre en jambes. Et n'empêche, tu aurais imaginé dire ça, ouais, je vais faire un petit 10 km, peut-être, ou je sais pas quoi.
Non.
Tu aurais imaginé il y a quelques temps, il y a même 2 ans, on va dire, courir comme ça, là, avoir ton compte Instagram avec tout ça. Tu l'avais imaginé ce truc-là ou ça pouvait arriver quand tu t'es lancé?
Bah non, pas du tout, puisqu'à la base, je suis pas du tout sportive. Ouais, j'aimais bien courir de temps en temps, mais c'était pas le sport, ça faisait pas partie de ma vie, quoi, au quotidien. Et puis comme d'être sur les réseaux comme ça non plus, donc c'est pas un hasard non plus, hein, puisque je publie régulièrement et c'est du travail aussi, je pense, pour pouvoir en arriver là. Mais non, je n'y serais pas. Si on me l'avait dit, j'y aurais peut-être pas cru.
Tu disais, t'as une longue liste de réels, de notes, enfin d'idées de réels sur ton téléphone.
Ouais.
Est-ce que tu te prends plus sérieusement au fur et à mesure ton compte? Parce qu'on dit grossi, j'imagine, t'as plein de gens qui contactent, des partenaires aussi et tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu imagines développer en fait, tu vois? Te dire, bah tiens, ça peut. Je peux imaginer, alors je sais pas après comment tu peux te présenter, mais de développer ce truc-là en fait.
Ouais, bah forcément, comme ça grossit, ça ouvre d'autres perspectives et donc je me dis que je peux en faire quelque chose. Là, je vais prochainement ouvrir une chaîne YouTube. J'ai un projet sur YouTube qui va arriver, je pense, courant février. Et voilà, donc ouais, c'est cool. Après, je prends le truc comme il vient. Forcément, maintenant, je le prends beaucoup plus au sérieux qu'avant et puis aussi, je suis plus à l'aise puisque je commence à prendre plus confiance en moi par rapport à tout ça, en fait. Par exemple, il y a quelques mois, enfin, ça fait pas si longtemps que ça, du coup, mais j'osais pas parler sur mes réels, en fait. Ouais. Et là, je commence à me sentir plus à l'aise et donc ça rend les choses plus vivantes aussi, quoi. Donc, ouais, c'est cool, non, je le prends plus au sérieux et puis. Et puis, j'ai plus en plus de projets aussi de courses. Et aussi, cette année, j'ai un gros projet de vélo.
Ouais.
Avec mon copain. Du coup, je vais découvrir le monde du cyclisme que je ne connais pas du tout. Mmh. Donc, voilà.
Ouais, c'est sympa le cyclisme.
Il paraît.
Je te confirme. Je confirme. Pour m'être mis au vélo l'an dernier, je te confirme.
Ouais.
C'est juste qu'après, les distances commencent à devenir bien plus longues. Je sais pas ce que c'est le projet que t'as avec ton copain, mais le temps. Et un jour, quelqu'un m'a dit, ah, tu vas voir, en te mettant au vélo, tu vas doubler le temps d'entraînement. Vraiment. Et en fait, oui, on confirme, ça va plus vite. Mais tu as grandi ta zone de jeu aussi. Et ça, c'est un truc qui est vachement plaisant. Je sais pas si tu peux en parler de ton projet que t'as en vélo.
Ouais, on peut en parler. Donc, c'est un projet qu'on est en train de mettre en place. On aimerait, en fait, relier Bayonne jusqu'à Marseille.
Ouais.
D'ici octobre, quoi. On va faire ça vers début octobre, je pense. Donc, c'est un gros projet puisqu'on n'est pas du tout cycliste et donc on va devoir beaucoup s'entraîner, mais on va se donner les moyens de le faire et on aimerait bien, du coup, relier ce projet à la recherche contre la sclérose en plaques. Donc voilà, il y a un projet qui va se faire autour de ça et du coup on va utiliser nos jambes pour euh, pour essayer de faire avancer un peu la recherche.
Bayonne-Marseille. Je suis en train de chercher le chemin pour aller de Bayonne à Marseille. Ça passerait par où ce truc-là? Vous avez déjà fait le parcours, les trucs comme ça?
Ben, on est en train, ouais. En fait, il y a un peu plus de 900 kilomètres. Et en fait, il y a soit un chemin où il y a petite piste cyclable qui est beaucoup plus court, et il y en a un qui est beaucoup plus long, mais il y a beaucoup plus de pistes cyclables. Donc, c'est celui qu'on va faire. Donc, on va partir jusqu'à Toulouse. Voilà, on va remonter du côté de Mont-de-Marsan, et après, on va relier Toulouse. Et voilà, c'est un assez gros projet.
Ouais, je pense qu'il y a un bout du chemin que j'aurais dû prendre l'été dernier, en fait. Bah ouais, parce que moi, j'ai fait la Loire et puis après, je suis descendu par la côte et je vais aller faire le Bordeaux-Narbonne, tu vois, truc, en passant par Toulouse, justement. Et, et en fait, c'est vrai que j'avais repéré, il y a des trucs sympas, tu vois, Toulouse et tout. Et puis on m'a dit, ouais, c'est à peu près plat et tout. Mais j'ai pas eu le temps, tu vois, j'ai pas eu le temps de boucler. Mais je suis en train de me redemander si je devrais pas cette année faire le bouclage de mon truc et faire la partie Bordeaux jusqu'à la Méditerranée, tu vois. Pour moi, mon truc, c'est de voir la mer, tu vois, t'as compris, je te l'ai dit, hein, le truc. Moi, je voulais voir l'océan. Tu sais, moi, une fois, je me suis baigné à la cano, j'ai dit, waouh, je suis cool, j'ai réussi mon défi. J'attendais ça, parce qu'il y avait eu la tempête sur les deux, trois premiers jours et tout avant, tu vois, et tout. Et maintenant, je me dis, ce serait bien quand même de finir la zone, là, comme ça. Mais bon, ça fait partie des projets. Est-ce que ça sera cette année, une autre année, etc. Vous voulez le faire en mode bikepacking, en mode comment vous dormez où et tout, là?
Non, on va dormir dans des hôtels ou chez des amis qui sont sur le trajet. Et l'idée, c'est de le faire bah, le plus vite possible. C'est pas en visitant, on veut le faire vraiment dans l'esprit sport. Et donc, on va essayer de déjà, ça va se préciser quand on va faire nos entraînements. On va voir de quoi on est capable aussi. Et pour le moment, on peut pas faire de plan vraiment sur la comète, mais c'est un projet qui nous tient à cœur.
Ouais, c'est cool d'avoir un projet comme ça tous les deux en disant tiens, on va faire ce truc-là. Puis ça te change de la course, ça va te faire un nouveau sport. Comment tu t'imagines l'intercaler par rapport à la course? Parce que tu as dit, attends, tu m'as dit, tu as deux projets de course cette année, hein, deux objectifs. Ouais, donc on en connaît un, mais on n'a pas l'autre. Alors.
L'autre, on me l'a offert à Noël. Du coup, du coup, je vais le faire. C'est le semi-marathon de Biarritz. Voilà. Mais du coup, celui-ci, je vais le faire vraiment tranquille, puisqu'il intervient un mois après le marathon. Donc, je vais y aller, je pense, en endurance fondamentale, quoi. C'est parce que c'est un semi qui est super cool, avec un peu de dénivelé quand même, donc il sera quand même costaud, je pense. Donc, voilà. Donc, c'est le second projet pour le moment.
Et donc après, derrière, vélo.
Derrière vélo, bah, je pense que ça sera début octobre.
Bah c'est des gros pôles en tout cas, ça va faire bouger, ça va faire du kilométrage.
Ouais.
Sur ton parcours maintenant, tu vois, quand tu sais ce que tu sais, est-ce qu'il y a des conseils que tu te donnerais, tu vois, ou tu aurais aimé faire les choses un petit peu différemment au moment où tu as débuté avec ce que tu sais maintenant en fait?
Ouais, bah déjà je me serais dit d'être plus indulgente vis-à-vis de moi-même, de prendre plus le temps de faire les choses. Et je me serais dit aussi, je pense, de pas du tout me soucier de ce qui peut se passer ailleurs, ce que les gens peuvent penser de moi, ce que et je parle pas d'Instagram pour ça, hein. C'est même ne serait-ce que dans la rue. Encore récemment, je me souviens, bah, sur le front de mer là où j'habite. Je suis arrivée ici, c'était déjà l'été, j'ai déménagé l'été. Et puis il y a un endroit où il y a un restaurant, et puis il y a un espèce de bar en fait devant le front de mer. Donc tout le monde est adossé et regarde la mer. Et il fallait passer devant tous ces gens. Et je me souviens avoir fait un détour parce que je m'étais dit, mais je vais être ridicule à passer, tout le monde va me regarder. Et en fait, m'émanciper du regard des autres dans la rue, que je cours vite, que je cours pas vite. Si j'ai envie de marcher, bah, je peux m'arrêter devant des gens, c'est pas grave. Ça, je pense que ça m'aurait libéré pas mal de choses et enfin, ouais, pas mal d'espace dans la tête en fait pour se concentrer sur d'autres choses qui sont plus importantes.
Ouais. T'as souvent des remarques de ce type-là? T'as souvent des remarques de gens ou des gens qui essayent de te donner conseils et tout en disant oh, vous devriez faire ça, etc.
Sur Instagram?
Non, ou dans la vraie vie?
Ah, dans la vraie vie, non, 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 dans la vraie vie, non. C'est moi toute seule qui me montais la tête, visiblement, mais sur Instagram, oui.
Non, parce que des fois, ça peut arriver. Moi, il n'y a pas longtemps, justement un jour où je faisais mon alternance course marche, un gars sur un chantier, tu sais, il faisait des travaux dans une maison, et le gars, il me dit, il faudrait peut-être courir là maintenant. Je le regarde, je dis, mais de quoi tu te moques, toi? Il trouvait ça vachement déplacé. Et je me suis dit, bon, ça va, j'en ai un de temps en temps. Mais j'ai discuté avec des invités qu'on a eu plus souvent, des genres de remarques,
Ah
et
ouais?
je connaissais des personnes qui l'avaient plus souvent aussi. Et en rigolant aussi, en disant, mais si seulement ces gens-là qui donnent des conseils, des fois, savaient le parcours, ce que ça peut faire. Et puis, des fois, je pense qu'il y en a, ils partent d'un bon sentiment. Bon, il y en a, ils font aussi un peu dragueur. Enfin, il y a un petit peu genre truc-là. Mais c'est vrai que je trouve, en plus, il y a des gens, c'est un peu déplacé, tu vois. Le gars, en fait, il me dit, il faudrait courir et tout. Il dit, en fait, il sait même pas que ça me frustre de pas courir, tu vois. Je trouvais que c'était un peu déplacé sur le coup.
Ouais.
Donc moi je l'ai pris un petit peu en regardant et puis après je suis repassé en courant, tu sais, parce que c'était le moment de courir et il m'a regardé
Ouais.
avec un sourire et j'avais presque envie de lui dire bah viens avec moi maintenant tu vois et maintenant qu'on peut courir. Mais c'est vrai qu'on a ce truc-là. Et après je pense que sur Internet par contre tu dois avoir quand même plus de gens qui vont te donner des conseils. Tu parlais tout à l'heure un peu le côté critique et tout. C'est vrai que souvent ça se formalise d'ailleurs j'imagine sur la vitesse, sur les allures.
Ouais, après, je pense que les gens, en fait, bah, à part vraiment les personnes mal intentionnées, mais il y en a quand même pas tant que ça, je pense que les gens, en fait, veulent bien faire. Mais c'est vrai que quelquefois, ben, on n'a pas forcément envie de conseils, tout simplement, en fait. Parce que peut-être qu'on sait qu'on va s'améliorer sur un point, et puis chacun va à sa vitesse, à ses étapes, on progresse tous. À notre manière et à notre niveau et au bon moment où on doit le faire, en fait. Donc, mais des critiques vraiment méchantes, non, mais des conseils, ouais, j'en ai régulièrement, quoi. J'en ai régulièrement.
Et de toute façon, s'émanciper du regard extérieur, et je crois que enfin tout le monde l'a eu et tout, et le complexe de l'imposteur et tout. Je me souviens, on a fait des épisodes. Je pense qu'on a parlé avec Charlène, on a passé avec Jean-Yves aussi, qui lui, quand il s'était mis au vélo, avait aussi ces cas-là et tout. Je pense qu'on a tous eu le truc. Moi, tu sais, et ça, c'est une anecdote que je raconte tout à l'heure, on parlait des clubs. J'avais écrit au club de mon coin en disant, vous acceptez des vieux coureurs lents? Et j'avais fait une réponse super en disant, venez essayer. Mais c'est vrai que, sur le coup, moi, je me disais, j'ai pas le droit d'aller courir en club parce que j'ai pas le truc des coureurs. Enfin, pour moi, les clubs, c'était que les gens qui allaient vite et qui étaient des athlètes dans ma tête, etc. Et c'est vrai qu'après, en mode club, j'ai découvert d'autres choses. Mais je pense que pour beaucoup de gens, et il y a des gens qui ont du mal à le croire parce qu'ils ne le comprennent pas, mais j'ai aucun mal à croire, à imaginer, tu vois, ce que tu pouvais penser sur ton histoire de passer devant le bar où il y a les gens qui regardent, etc. Et tout. Je sais que j'ai des gens aussi qui disent qu'ils n'osent pas s'inscrire à des courses aussi à cause de ça, en se disant, mais qu'est-ce que je vais faire là, tu vois? Ça, c'est un truc que t'as pas eu, toi, ce sentiment-là de dire qu'est-ce que je vais y faire ou...
Non, pour les courses, non. Mais c'est vrai que quand j'essaie de motiver des personnes autour de moi à courir, des amis, des proches, quoi, j'ai souvent la chose de la personne qui me répond, non, mais je vais être trop lente par rapport à toi. Mais non, mais déjà, je suis lente, donc c'est bon. Mais en fait, c'est juste cool d'aller courir, quoi. On s'adapte. Enfin, moi, je suis prête à courir plus lentement. S'il faut courir plus lentement avec quelqu'un et plus vite, je peux essayer. Mais c'est pas dit.
Moi, j'avais mon ego qui disait je veux absolument pas finir dernier.
Ouais.
Et ma première course d'ailleurs, c'était avec une ancienne collègue qui m'a dit, elle me dit, moi, tant que je finis pas dernière, ma course est réussie et tout. Et on avait regardé ce truc-là et tout. Et bien sûr que ça aurait rien changé. Franchement, si j'étais arrivé dernier ce jour-là, ça changeait rien et tout. J'ai reçu, on a fait des épisodes hein, avec quelqu'un qui est arrivé et dernière. Petite pensée pour Estelle, qui nous a fait beaucoup rire dans cet épisode-là et tout. Et en fait, ça change rien. Mais c'est vrai que notre ego, il a un petit truc et tout. Je sais pas si toi, ton ego, des fois, te joue des tours.
Bah, par exemple, j'ai un exemple pour la course Marseille-Cassis. J'ai été donc invitée par une marque et 2 semaines avant, il y a eu un événement donc où il y avait bah, des personnes qui pour moi sont des personnes connues en fait et des personnes surtout qui courent vite quoi. Et on devait faire un petit run tranquille et tout. Et puis moi, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, mais je vais être la plus nulle, maman, vraiment, je vais être la plus nulle, la plus lente, c'est sûr et tout. Et pendant la course, en fait, on a monté toutes les marches jusqu'à Notre-Dame. Forcément, j'étais la plus nulle. Et dans ma tête, je me suis dit, ils m'attendaient tous, en fait, à chaque fois en haut des escaliers. Et dans ma tête, je me suis dit, bah, là, ça y est, t'y es, quoi. T'es vraiment la plus nulle. Maintenant, va au bout de la course, quoi. Et je suis allée au bout de la course. Et déjà, j'étais impressionnée parce que pour moi, j'étais déjà dans un environnement que je connais pas, avec des personnes que je vois sur Instagram, quoi. Et puis, j'étais la plus nulle. Et en fait, ça m'a fait rire toute seule dans ma tête en me disant, mais en fait, on s'en fout. Je vais au bout de la course, quoi. Et je me souviens être arrivée en bas, j'étais rouge comme je sais pas quoi. Et puis, mais j'y suis arrivée, quoi. Donc, c'était cool. Mais avant, je m'étais beaucoup monté la tête quand même. Ouais. Ouais.
Tu sais, il y a un truc, moi, sur le marathon de Paris, je me souviens aussi, c'était sur le SAS dans lequel je me suis inscrit. Alors, je sais pas toi dans quel SAS tu t'es inscrite, mais moi, sur le SAS, j'avais un petit truc des cours en me disant, ouais, je pourrais peut-être me mettre dans le SAS le plus rapide. Le fameux 10 km de l'équipe aussi, en me disant, alors, le plus rapide, attention, hein, c'est pas le SAS 3 h et tout. Moi, je dis, je pourrais peut-être monter de SAS en 3 h 30 en essayant, tu sais, qui était devenu mon nouvel objectif par rapport à mon semi et tout. Et en me disant, ouais, ça fera un petit peu mieux et tout, tu vois. Et sur le 10 km de Paris aussi, c'était pareil. Je sais plus comment j'avais mis. J'ai dit, ah, oh, je m'inscris dans un sas. Mais un peu par ego, tu vois, je me rends compte. Et c'était parti comme des bombes. Oh, je les avais vus partir, j'ai dit. Et puis après, on finit par les rattraper. Tu te rends compte en plus que les sas, ça veut rien dire parce que y en a qui s'inscrivent dans les premiers sas, mais qui sont lents, comme ça leur donne plus de temps pour finir le marathon de Paris, tu vois, allonger les délais et tout, etc. Mais je pense qu'on est un peu. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis dedans parce que je sais que c'est un de mes problèmes, mais je pense il peut y avoir des trucs qui peuvent nous jouer des tours et aussi de ça. Et c'est vrai que c'est amusant parce qu'on découvre aussi, je trouve. Enfin, tu disais, tu as des discussions avec toi-même, tu as des découvertes et tout. Tu as des trucs que tu as découvert dans ton caractère, dans ta manière de fonctionner, tu t'imaginais pas faire ça ou qui sont modifiés depuis que tu cours?
Mais déjà, je me suis révélée être organisée. Et ça, je suis quelqu'un de très désorganisé. Et pour la course à pied, par contre, j'ai une organisation. Enfin, même quand pour les 20 km de Paris, je dormais chez ma mère. Et elle m'a dit, mais je t'ai jamais vue aussi organisée, quoi. La veille, j'avais fait toutes mes petites affaires, j'étais prête. Et c'est comme ça, je réfléchis vraiment à toutes mes machines, comment je vais. Pour toutes les courses, quoi. Je suis jamais en manque de rien, quoi, pour la course à pied. Ça, c'est vraiment une grande découverte. Mais du coup, j'ai pas réussi pour le moment, à déporter cette qualité sur l'ensemble de ma vie. Mais peut-être que ça viendra. Mais ça, c'est vraiment la qualité, la plus importante que j'ai révélée grâce à la course à pied. C'est l'organisation.
Ouais, il faut le dire, hein, pour être coureur, il faut être organisé parce que placer 4 séances dans la semaine, et toi en plus, tu fais des réels, tu fais des vidéos, tu fais tout ton truc autour de ça et tout. Mais il y a plein de gens qui ont du mal justement à trouver l'organisation. C'est quoi toi tes astuces d'organisation? Tiens, il y a des. Tu dis, t'es organisé, t'as des petites astuces comme ça pour ceux qui voudraient mieux s'organiser, qui cherchent un petit peu des petits hacks, j'ai envie de dire, tu vois, pour courir plus régulièrement.
Déjà, je dirais pour l'emploi du temps, moi, en ce moment, je travaille pas, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Maintenant, je fixe quand même dans ma tête, je fixe mes séances à l'avance et je les fixe aussi généralement quand je suis bien organisée, autour de ma vie. Donc, voilà, si je sais en règle générale, si je sais qu'il y a un anniversaire, par exemple, je vais pas caser une sortie le lendemain. Là, la dernière fois, je l'ai fait parce que j'ai été malade tout le début de la semaine, donc j'ai dû caser mes séances les unes après les autres. Mais déjà, ouais, de prévoir à l'avance et de savoir quand est-ce qu'elles vont arriver, comme ça, je suis prête mentalement aussi. Donc ça m'aide aussi à rester disciplinée. Et puis après, je prépare mes affaires aussi à l'avance. Donc je sais à peu près hein, ce que je vais porter, quelles chaussures je vais porter. Voilà. Je pense que c'est les deux choses les plus importantes. Et puis après, je réfléchis aussi où est-ce que je vais aller courir, suivant les séances en fait. Et puis si je vois que je suis allée beaucoup de fois au même endroit, je vais essayer d'aller ailleurs pour diversifier et ne pas me lasser. Donc ça, j'y réfléchis aussi.
Surtout que les séances vont s'allonger, donc faut trouver des parcours aussi quoi, un peu de fun, un peu amusant et tout, de temps en temps aussi. Tu as réfléchi à ça d'ailleurs, avec les séances qui s'allongent, comment tu peux les organiser?
Par rapport aux endroits?
Ouais.
Ouais, par rapport aux endroits, bah non, moi je sais que à côté de chez moi, il y a quand même de quoi faire. Donc il y a beaucoup de pistes cyclables en fait, qui sont plutôt cool parce que c'est au milieu de la forêt, c'est goudronné, donc c'est sympa quoi. Donc c'est vrai que j'y vais et je vois. Après, c'est vrai que ce que je regrette, c'est que j'adore courir en forêt et toute seule, j'ai un peu peur. Donc du coup, ça je le fais que quand je suis accompagnée. Mais voilà. Mais après, sur les sorties longues, ouais, il y a de quoi faire vers chez moi. Je pense que ça va aller.
Ouais. Moi, je me fixe des objectifs aussi pour faire des sorties longues. Je vais chercher un cookies, un café,
ouais.
Il mangeait là. Le dimanche, ma sortie longue cookies, elle ferait 18 km, tu vois, par exemple. Ce qui, sur une prépa marathon, n'est pas suffisant. Mais en allongeant un petit peu, on peut trouver des trucs. J'avais réussi à allonger jusqu'à 30 km un jour sur la préparation de mon 24 heures. Donc, tu vois, il y a toujours en allant chercher un cookies, un café en faisant des petits détours. Donc, il y a des trucs qui sont jouables des fois, mais c'est vrai que moi, c'était ma. Tu vois, mon grand truc, et je sais pas, pour ça, je te posais la question tout à l'heure, c'est par rapport à l'ennui, etc. À un moment, j'avais dit, je ferai jamais un marathon parce que j'ai peur de m'ennuyer en courant. Alors, j'ai découvert depuis qu'on pouvait courir beaucoup plus longtemps sans s'ennuyer et tout. Mais ça, c'est un truc qui, moi, me freinait en disant, et je crois que je l'ai dit même à une époque, j'ai dit, dans mes anciens podcasts, j'ai dit, ouais, mais moi, je ferai jamais de marathon, c'est trop long, ce truc-là.
Ouais.
En fin de compte, j'ai fait 24 heures, donc c'est beaucoup plus long que ça encore. Mais comme quoi, je trouve qu'aussi, on se découvre, il y a des trucs qu'on découvre aussi, qu'on peut, ça peut être différent, tu vois. T'écoutes de la musique, des podcasts en courant, tu passes le temps de manière différente.
Bah ça dépend, parfois de la musique, parfois des podcasts, et puis parfois rien du tout. Ça va dépendre vraiment de mon humeur du moment, et quelquefois je commence avec de la musique et en fait après mes écouteurs me saoulent, donc je les enlève. Parfois voilà, j'écoute un podcast, quand il est fini j'arrête, je remets rien d'autre.
Le mois de janvier où j'ai couru 500 km, j'ai écouté des livres audio, tu sais, comme je courais tous les jours de plus en plus.
Ouais.
J'ai réussi à écouter deux Laurent Gounel dans le mois de janvier, ce qui était quand même super cool, tu vois, j'étais content. Et en fait, ça m'allongeait mes séances. Alors, tu vois, et là, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu fais partie de la team de ceux qui veulent des comptes ronds ou ceux qui s'en moquent d'avoir des comptes pas du tout ronds sur leur montre au niveau des kilomètres, des temps, des trucs comme ça?
C'est marrant parce qu'avant, j'étais compte rond à fond, quoi. Et puis maintenant, je m'en fiche totalement. L'autre fois, je me suis surprise juste à vouloir faire un compte rond parce que j'étais à, je sais plus, 10 km 99, je crois. Et là, je me suis dit, non, je peux quand même pas laisser ça. Mais sinon, non, je m'en fiche.
Ouais, moi l'autre jour, j'ai essayé de faire un 20-24 dans une séance de reprise. 20 minutes 24.
Ouais.
Et je me suis raté.
Ah.
Ouais, ma montre, elle s'est arrêtée à 27. J'ai dit, tu vois, le temps que j'appuie sur le bouton, ah zut. J'ai dit, ouais, tant pis, je recommencerai un autre jour. C'était celle du 1er janvier, tu vois. J'ai dit, allez, 1er janvier, 20-24. Bam, raté.
Et ben non.
Non, mais il y a des teams là-dessus. Et tiens, et j'ai une autre question aussi. Comment tu vois, toi, les analyses? Je ne sais pas si tu es sur Strava, si tu regardes tes stats, si tu portes attention ou si finalement, tu t'en moques un peu.
Non, je ne suis pas sur Strava par choix. Et parce que je trouve que c'est un réseau qui porte beaucoup à la comparaison et voilà, je pense que je donne déjà beaucoup d'informations sur Instagram, sur mes courses et il faut quand même que ça reste aussi ma pratique, quoi. Donc, je regarde, moi, mes statistiques pour moi, et j'y prête attention de plus en plus, mais je les rends pas publiques, en tout cas.
Et alors, ça me fait penser à une question. Tu disais, tu passes beaucoup de temps, tu partages beaucoup de choses. Est-ce que tu as l'impression que des fois, de faire tes petites vidéos, ça te sort de ta pratique ou ton entraînement, ou tu as des fois, tu as des séances que tu faisais un peu, alors j'ai envie de dire, un peu gâchées ou un peu modifiées pour faire tes vidéos, tes réels?
Non, j'ai pas l'impression que ça avait gâché des séances. Et j'ai la chance aussi d'avoir mon copain qui me filme beaucoup. Donc, du coup, je peux quand même me concentrer et me dédouaner de ça quand c'est des séances trop compliquées. Maintenant, il m'arrive aussi de faire des séances et de pas en parler du tout, parce que parfois j'ai l'impression que justement je dédie beaucoup de mes courses à ça, voire quasiment toutes, et que du coup j'en oublie parfois peut-être le fait de juste aller courir pour moi, ça fait beaucoup de bien et de pas avoir à réfléchir, à me filmer. Là, ça peut être un moment cool à prendre en film. Donc j'essaie quand même de plus en plus sur des footings ou autres types de séances hein, à garder des moments pour moi et pour me recentrer vraiment en fait, puisque à la base c'était ça qui me faisait du bien. Donc ça me fait quand même du bien puisque la séance je la fais et voilà. Mais c'est vrai que du coup je me suis habituée à fonctionner comme ça. Donc c'est pas dérangeant, ça me gâche pas mes séances, mais parfois j'aime bien ne pas le faire aussi.
Ouais, je comprends. Parce que moi, ça, des fois, ça me gâche mes séances. Il y a des fois des trucs. Ouais. Ah, mais
par
il y a des trucs. Mais moi, je suis un maniaque de la photo. Un jour, le président de mon club m'avait dit, il me dit, c'est incroyable le nombre de photos que tu as sur ton Strava. Il me dit, c'est incroyable le nombre de photos que tu as sur ton Strava. Et en fait, tu sais que c'est des fois, je vois un truc, je vois une scène, je dis, oh, ça serait chouette, je pourrais le faire, etc. Et je sais, alors, je le fais pas trop sur les fractionnés, tu vois. Les séances fractionnées, non. Quand c'était en club, non. Mais des fois, sur les sorties longues, tu vois, il y a des moments où je dis, ah bah tiens, ce truc-là, il est sympa, je vais faire une photo, je vais m'arrêter, je vais faire un petit aller-retour. Tu vois, des trucs un petit peu comme ça qui, des fois, modifient un petit peu ma pratique. Et puis, des fois, j'ai des sorties où je cours 30 minutes et puis, tu sais, je rajoute 5-10 minutes de photos. Ah, il y a un truc sympa, ou tu vois. Et puis, il y a des fois aussi, ça modifie mes parcours. Et alors là, par contre, c'est plus sympa. Parce qu'il y a des jours, je me suis rendu compte que j'ai fait des choses que je n'aurais pas faites sans si j'ai pas voulu faire la photo. Du style, monter au sommet d'une petite montagne, aller courir au lever du soleil. Il y a certains jours où j'étais un peu vilain, mais j'ai repéré que le lever du soleil, c'est beau, tu sais, je voulais peut-être dire, oh, le lever du soleil, j'y vais à fond, tu vois. Et tout. Mais c'est vrai que là, et je l'ai vu il y a pas longtemps aussi, d'autres gens, je me sens moins seul, en fait, dans mon espèce de maniaquerie là-dessus, qui le disent aussi que ça modifie leur truc. Et qui est, moi, il y a un truc que je peux pas faire, c'est partir courir sans téléphone. Mais j'ai vu des gens qui disaient, maintenant, je cours sans téléphone, justement, pour éviter ces interférences, etc. et tout, tu vois.
Ah ouais.
Là, moi, j'en suis
moi
pas
aussi,
là.
Je peux pas. Moi non plus.
Bah, je suis pas là. Et de toute façon, j'aurais toujours une bonne excuse. J'ai besoin d'être joignable. Si on a besoin de moi pour ma fille, si l'école appelle et tout, tu vois. J'ai même essayé, et je le dis parce que on me pose des questions aussi là-dessus, de mettre un limiteur de mon Instagram, tu sais, pour que maintenant à chaque fois que j'ouvre Instagram, ça me ferait respirer pendant 5 secondes. C'est chiant, tu vois, j'ouvre 40 fois par jour moi mon Instagram et c'est chiant ce truc-là. Mais en fait, je me dis, ça va me limiter un petit peu, tu vois, dire déjà je regarde pas quand je cours, je fais pas ça et tu vois, je fais plus de story en courant par exemple. C'est un truc que j'ai arrêté. Je sais pas toi si tu fais des stories en courant, mais moi c'est un truc que j'ai arrêté. Je l'ai fait après, je l'ai fait avant, mais plus pendant. Alors qu'à l'époque, je les faisais pendant.
Moi je fais pas de story, mais en même temps, je me filme tout le temps en courant. Donc, donc j'ai tout le temps mon portable, c'est vrai. Mais tu vois, par exemple, quand mon copain me filme, j'ai toujours cette sensation au début de la course. Du coup, je lui donne mon portable. Ouais. Et j'ai toujours ce petit truc de. Ah, je lui donne mon portable en fait, et je vais pas l'avoir quoi pendant tout le temps de la séance. Puis après ça passe, mais je pense à autre chose parce que je suis dans ma course. Mais c'est vrai que ça nous rend quand même accro. Hein.
Ouais, ça nous rend accro. Ouais. Et tiens, et est-ce que c'est une question que tu t'es posée par rapport à ton marathon, de comment tu allais raconter le pendant en fait?
En fait déjà je vais être en partenariat avec une marque pour le marathon. Donc, il va y avoir des vidéos faites autour de ça, mais j'ai pas encore réfléchi à ça parce que, par exemple, pour les 20 km de Paris, je pensais pas filmer autant et j'ai filmé toute la course.
Ouais.
Marseille-Cassis aussi. Je pense que ça dépendra de mon état aussi, de comment je me sens et du niveau de concentration dont j'ai besoin aussi.
Mmh.
Parce que c'est vrai que ça déconcentre en fait. Je pense que à peu près comme d'habitude, je verrai sur le moment.
Oui, t'as bien raison. moi, bizarrement, j'ai très peu filmé sur le marathon de Paris, franchement. Mais à l'époque, je filmais moins de choses aussi et tout. Mais je sais que maintenant, sur les trails, j'en filme très peu, tu vois, même sur les courses, tu vois. Même par exemple, j'avais regretté, je me suis rendu compte, c'est une vidéo que je devais faire sur mon dernier 10 km où je faisais l'alternance course-marche. Et ben, à la fin de la course, je me suis rendu compte que j'avais pas de vidéo de la course, de pendant la course, tu vois, quasiment. Et donc, pour montrer l'alternance course-marche, pendant la course, avec les temps, tu vois, tout, j'étais obligé de recomposer. Donc, j'ai eu un peu la flemme de monter la vidéo. Alors qu'à une époque, je les filmais toutes. Et des fois, je me suis retrouvé des courses. J'avais, je sais pas, peut-être 50 séquences, tu sais, qui étaient tournées et tout.
Ouais.
J'en faisais trop, je les filmais plus et tout. Au début, je faisais des trucs comme ça. Et par contre, et j'ai constaté ce truc-là de déconcentration, tu vois. Et puis que je fais de la prépa mentale, j'ai vu ce truc. Et à force de dire, attention, reste concentré, maintenant, tu vois, ça, je l'ai éliminé. Mais c'est vrai que c'est la question que je me suis posée parce que je vois plein de gens, tu vois. J'ai vu le marathon de New York avec des gens qui courent, tu sais, ils se filment en courant et tout, avec les gens qui passent autour. Et c'est vrai que je me suis dit, mais alors, marathon New York, je pense que je serais obligé de filmer, tu vois. Mais tu vois, je me dis, si je refaisais le marathon de Paris cette année, eh ben, je sais pas, tu vois, comment je le ferais par rapport en filmant, tu vois, sur ce truc-là. Et c'est une vraie question. C'est pour ça que tu vois, j'étais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Toi, comment tu voyais les choses?
Ouais, non, c'est possible. Je pense que je prenne quelques vidéos, mais après, comme c'est vraiment mon objectif de l'année, je pense que je vais essayer de vivre mon moment quand même pleinement, j'ai envie de dire, parce que je le vivrai quand même, même si je fais des vidéos, mais je vais essayer de tout donner. Et pour ça, je pense que je vais avoir besoin d'une concentration quand même assez importante. Donc, je pense qu'il n'y aura pas énormément de vidéos pendant le marathon.
Ouais. Et tu dis, c'est ton objectif de l'année. Tu te l'as fixé comment ton objectif pour toi? Tu te mets un temps, je ne te demande pas de le partager ou quoi que ce soit, mais c'est une question de temps, c'est une question de finir, c'est une question de le finir d'une certaine manière. C'est quoi pour toi de définir l'objectif en fait?
Bah, je pense que c'est un peu des trois. Déjà, le plus important, c'est de le finir, puisque c'est ma première expérience sur un marathon. Dans un second temps, le plus important, c'est comment le finir. J'aimerais bien le finir en bon état. Et je pense que c'est ça aussi qui. Enfin, c'est mon point de vue, mais pour moi, en fait, si on le finit dans un bon état, c'est qu'on a quand même fait une bonne prépa. Et puis après, le bonus pour moi, c'est d'atteindre un temps que je me suis donné, mais je serais pas déçu si je l'atteins pas. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment un melting pot des trois qui feront une bonne course.
Une bonne course et ouais, une bonne course, c'est aussi une bonne prépa.
Ouais.
D'apprécier la prépa parce que c'est vrai que la course est courte par rapport au temps de prépa.
Ouais.
Fait partie des choses et là aussi, hein, c'est qu'est-ce qu'on met comme moyen et tout. Et tiens, et c'est une dernière question que j'ai. Tu t'es adapté, tu vois, par rapport à ta prépa marathon. Tu fais des choses que tu faisais pas avant, genre pour ton semi, tu vois, pour une autre course. Tu te dis, oh, il faut que je fasse un peu plus des choses. On disait que tu plaisantais sur le gainage ou le renforcement au début, mais. Il y a des choses, tu te dis, allez, là, il faut que j'en fasse un peu plus pour le marathon.
Ben, j'ai trois objectifs que j'essaie d'améliorer, puisque enfin, moi, je vois vraiment les choses comme ça. C'est, on ne peut pas tout ajouter d'un coup. Donc, j'essaie petit à petit d'améliorer certains points. Et là, les trois points que j'essaie vraiment d'améliorer, c'est mon hydratation. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est le renforcement musculaire, d'être vraiment plus discipliné. Et le dernier point, c'est la nutrition. Et j'ajouterais même un dernier, quatrième point à progresser, c'est les étirements. Voilà. Donc j'essaie de m'améliorer sur ces quatre points. Et puis voilà. Et puis du coup, je progresserai forcément plus ou moins vite sur certains points. Mais j'essaie de l'avoir en tête, en tout cas régulièrement, et d'en ajouter.
De toute façon, comme tu l'as dit, on peut pas tout faire en même temps, progresser sur tout, etc. Tout, hein, c'est un peu. Moi, je t'avoue, je suis très feignant sur le. J'étais très feignant, on va dire, sur 2023, sur le renforcement, sur la musculation. Alors que c'était un gros objectif. Et là, aujourd'hui, je suis
Ouais.
content. Tu vois, j'ai fait mes séances ce matin, j'ai refait une petite séance à midi. Tu vois, en fait, je divise en petits morceaux dans ma journée. Tu vois, pour que ce soit moins pénible. J'ai pas envie de faire une demi-heure d'un coup. Alors, je fais 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Tu vois, je place des
Ah
choses.
ouais,
Et je fais avec ma
c'est une
fille.
bonne idée.
Ouais, ma fille, elle prend une petite haltère toute petite. Moi, je prends une haltère plus grosse. Je fais des exercices. C'est elle qui m'a fait faire ma séance de yoga l'autre jour. Elle m'a dit, papa, j'ai envie de
Ouais.
faire du yoga, tu le fais avec moi. Ok, ok, ça marche.
OK.
6 ans, tu vois, déjà, petit chef. Mais en fait, elle a eu raison, en fait. Et puis, parce qu'après, le lendemain, elle m'a dit, oh, j'ai pas envie de faire mon yoga aujourd'hui. Et tu vois, je l'ai pas fait beaucoup. Donc, c'est un peu ma coach, un petit peu comme ça. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur l'espèce de truc de dire, on va essayer de faire des efforts sur certains points. Et pour ça, je te posais aussi la question de l'alcool au début. Tu vois, ton réel, il était tombé à pic parce que j'ai vu plein de gens se poser la question, se dire, est-ce qu'il faut boire de l'alcool pendant notre prépa ou pas? C'est une question que j'avais posée à Bruno Obi dans Sport Nutrition, pour ceux qui veulent écouter l'épisode, qui lui a été champion du monde, tu vois, dans certaines disciplines et tout. Et il me disait, bah moi, lui, il adore le vin, mais il prend jamais d'alcool pendant une prépa. Mais bon, après, tu vois, il avait un niveau équipe de France, etc. et tout.
Ouais.
Et puis, il y avait des prépas courtes chez lui. tu vois, 10 semaines. Mais quand tu as 6 mois, tu vois, ou 24 semaines ou 21 semaines, tu m'as dit, donc ouais, on est presque à une moitié d'année. C'est vrai qu'avec les fêtes de fin d'année au milieu, avec des choses comme ça, les anniversaires, les proches, etc., ce dilemme-là, et je pense que, tu vois, le fait que tu en aies parlé, je trouve qu'il y a plein de gens aussi, tu vois, qui vont se dire, ouais, mais finalement, ça t'a pas cassé ta prépa, tu vois. Enfin, il y a plein de gens qui se prennent la tête dessus.
Non.
Ça te casse pas ta prépa de l'avoir fait.
Puis je pense qu'il faut revenir à la tolérance envers soi-même, et puis on est là pour kiffer, en fait. Donc, je pense qu'il faut pas se mettre la pression et se dire déjà, tous les gens que je vois, en tout cas sur Instagram et tout, c'est déjà trop bien tout ce qu'on fait, puisqu'on est là, on court, on essaie de se dépasser, d'être meilleur que la veille, et c'est déjà super, quoi. Enfin, moi, j'ai pas envie, en tout cas, j'ai pas un assez bon niveau, en tout cas, il n'y a pas d'enjeu pour moi pour me priver à ce point-là. Après, c'est vrai que là, sur la fin de la prépa, je pense que je vais faire attention, parce que ça fatigue le corps quand même. De boire et d'avoir une gueule de bois, donc c'est pas forcément ce qu'on recherche non plus, puisqu'on essaie d'aller au meilleur de nous-mêmes. Mais ouais, j'ai pas envie de me priver totalement et que ça devienne une contrainte, en fait.
Et sur le marathon de Paris, il y a un autre truc, je le dis pour tous ceux qui ont fait un marathon de Paris, faites attention au salon du running la veille.
Ah ouais?
Oh punaise, c'est pas sur l'alcool, c'est sur les nombres du pas que tu fais, sur le piétiné, sur le temps que t'y passes, etc. Moi j'avais dit, je vais chercher mon dossard, je fais un tour, et je repars. J'y suis resté 3h30, 4h. J'ai vu Marie Leleu, j'ai vu telle personne et tout, tu vois, j'ai vu, tiens, je vais voir ça, Yann Stuck et tout, tu vois. Et à la fin, je regarde mon truc, j'ai essayé des lacets, j'ai essayé des chaussettes, tu vois, je suis reparti. Et à la fin, je regarde mon truc, je dis, oh, alors j'avais raté mon ordre pas, tu vois, et tout. Après, il fallait, j'ai marché beaucoup plus que prévu, j'ai fait je sais pas combien de pas, alors que j'ai prévu de faire un tout petit truc, tu vois, et tout. Et je m'étais rendu compte quand même, j'étais bien cuit à la fin de la journée, tu vois. Et c'est vrai que c'est un piège. Et moi, je pouvais pas, parce que, tu vois, je pouvais pas monter avant, mais si j'avais pu le faire l'avant-veille, tu vois, mais laisser, tu vois, ou arriver à me discipliner, je sais pas si j'aurais pu. Mais en tout cas, c'est un piège. Ça fait partie des trucs, tu vois. C'est, je me t'ai dit, là, je me suis fait un peu avoir, en fait, un peu par le truc. Mais c'est vrai qu'après, il y a tellement de stands, tu peux rencontrer tellement de gens, et puis tu as des partenaires potentiels, tu as des gens, des rencontres, etc., que c'est un peu tentant aussi, tu vois. Mais voilà, ça fait partie des petits pièges. Je le dis pour ceux qui préparent le marathon de Paris, ou ces grands marathons où tu as des gros trucs. Des fois, on peut se faire avoir un peu par ces ambiances-là. Bon, c'est comme ça. Hein, voilà.
Bah, merci de nous mettre en garde.
Ah écoute, hein, tant qu'à faire. Mais après, moi c'était cool parce que j'en ai un bon souvenir, tu vois, avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de croiser et tout. Et puis voilà, donc voilà. Bah écoute, en tout cas, c'était un plaisir de te discuter avec toi.
Pareil.
Je te souhaite une très très belle prépa, une très belle année aussi, parce que bon, on a dit, t'as les deux courses, le vélo. Tu te projettes quand même après en disant, est-ce que pour toi le marathon c'est une étape? Ou est-ce que tu peux imaginer, alors on a dit il y a le vélo, mais ce qu'il pourrait y avoir après, ou pour l'instant tu te dis je me préoccupe pas de ça.
Si je me projette, en fait j'ai très envie d'aller sur des longues distances. J'aimerais bien commencer le trail, surtout que maintenant que j'habite dans le sud, je peux aller m'amuser un peu dans les Pyrénées, donc ça c'est aussi un projet, 2024, et j'aimerais bien faire des beaucoup plus longues distances, ça m'attire beaucoup. Donc, je me projette là-dessus et je sais que je vais y arriver. Et après, il faudra juste mettre les choses en place pour le faire correctement. Mais je n'ai pas de doute un jour d'atteindre mes objectifs.
Il y a une course qui te fait rêver, un truc, tu te dis, j'aimerais bien faire cette course-là ou aller à cet endroit-là, cet événement-là particulier.
Pas spécifiquement pour le moment, mais c'est vraiment cette idée, je trouve, des ultra trails qui m'attirent beaucoup, ce dépassement de soi et qu'il soit mental ou physique, en fait. Enfin, c'est l'ensemble qui m'attire beaucoup. Donc, il n'y a pas de course en particulier pour le moment et je pense que ça se profilera après, quand je me serai lancée un petit peu dans la discipline du trail. Mais ouais, je sais pas pourquoi, je suis vraiment beaucoup attirée par ça.
Bah écoute, tu as raison, après c'est une belle discipline qui fait voir d'autres choses, d'autres parcours, d'autres types d'entraînement, qui fait faire de la montée. Et pour ceux qui, Des fois, c'est pas évident. Mais moi, après, en préparation marathon, j'avais des côtes. Mais moi, après, je suis en Auvergne, j'ai pas de terrain plat. Donc, le jour où je cherche un terrain plat, où j'en trouve un surtout, hein, je peux pas partir de la maison, je peux pas rentrer de la maison sans monter et sans descendre. Mais c'est vrai que le trail, il y a un côté aussi, il faut monter, il y a notre apprentissage, notre terrain, d'autres chemins et tout. D'autres, l'hydratation, la nutrition, c'est encore d'autres trucs, hein, parce qu'on n'a pas les ravitaillements et tout. Et c'est une redécouverte. Et ce qui montre aussi que la course fait partie en fait des sports qui sont presque infinis, moi je trouve. On peut tenter
Clairement.
tellement de trucs, tu peux faire tellement de trucs différents et tout, tu peux tellement t'amuser avec des choses. Et puis alors le vélo aussi, tu vas voir. Enfin, problème, ça,
Ouais.
le vélo c'est amusant. Moi je trouve que et en fait, je l'avais dit, le vélo, ça permet de redécouvrir son âme d'enfant. Je ne sais pas si tu faisais
OK.
beaucoup de vélo quand tu étais petite, mais alors moi, le vélo, c'était le truc qui donnait un espace de liberté. Et là, j'ai retrouvé cet espace de liberté. Et c'est pour ça que, voilà, cette année, enfin, en 2023, je me suis beaucoup amusé sur mon vélo. Je pense, et je te souhaite de beaucoup t'amuser, en tout cas, à la fois sur ta prépa marathon,
Ouais.
parce qu'il faut que ce soit du jeu quand même, hein, faut que ce soit
Ouais,
amusant,
c'est ça.
parce que sinon, c'est un peu tristouné, quoi.
Ouais. Non, mais oui, c'est ça. Il faut garder cette notion de plaisir, même si parfois c'est difficile, que ce soit d'être discipliné ou même la séance en elle-même. Mais il faut que ça reste un plaisir, le plaisir de courir, le plaisir de faire du sport et puis voilà, sans se mettre la pression, en fait.
Donc je te souhaite une belle année, une belle réussite pour tes objectifs, hein, de
Eh ben,
course, de vélo.
je te souhaite pareil.
Merci. Et puis un bon développement de ton Instagram, parce que c'est vrai que moi bon, je le vois grossir à toute vitesse. Tu me fais beaucoup rire avec la plupart de tes. Et puis il y a des trucs en plus, des scènes, tu te dis, c'est tellement vrai. Tu sais, tu en avais fait un jour un réel sur comment tu t'imagines tu cours dans ta tête et comment tu cours en réalité là.
Ah oui, ouais. Ouais. On croit qu'on court beaucoup plus vite, en fait, mais. Ben parfois je regarde les vidéos après des courses quand mon copain me prend et je fais ah ça ressemble à ça bon c'était pas ce que je pensais mais bon il faut s'assumer tel qu'on est hein.
Eh bien, écoute, je trouve que c'est un bon mot de conclusion parce que le principal, finalement, dans tout ça, c'est de courir et de courir comme on aime. Hein. Je sais pas si toi, tu dirais la séance réussie pour toi. Tu vois, le truc, un peu ta séance de rêve, elle ressemblera à quoi, toi?
Bah c'est une séance, je pense, où on arrive avec le sourire, on kiffe tout le long et on finit avec le sourire. Et pour moi, c'est ça le plus important, en fait.
Eh bien, écoute, je souhaite beaucoup de séances de rêve cette année. Et je te souhaite un marathon de rêve, tu vois, tant qu'on y est. Que ça soit vraiment
Merci.
une très belle course, que tu puisses la. Ouais, c'est une belle fête, il y a une belle ambiance, il y a du monde, il y a de l'émotion, il y a tout. C'est parti des jolis moments. Je m'étais posé la question de savoir si j'y retournais pas, tu vois, cette année, presque. Puis bon, on va tenter un autre truc.
Ouais.
On va tenter un autre. En tout cas, j'ai un autre marathon que je l'ai déjà annoncé. Donc, parce que lui, j'ai pas pu le faire. Il me trotte dans la tête dessous. Mais en tout cas, c'est des jolis moments, des belles ambiances. Donc, je te souhaite de bien en profiter. Je te souhaite une belle année, hein, pleine de réussite.
À toi aussi.
Et je te remercie en tout cas pour le temps passé avec nous. Et puis, bien entendu, je mettrai les liens. Alors, pour te suivre sur Instagram, mais on va le dire parce que je l'ai pas dit au début. Finalement, ton compte Instagram. Mais si je le redirai dans l'intro, mais alors, d'ailleurs, j'ai une question, c'est comment tu l'as, pourquoi tu l'as appelé comme ça ton nom, ton compte Instagram?
Bah je me demandais justement comment j'allais l'appeler. Et puis, je sais pas, ça m'est venu comme ça et je me suis dit, mais en fait, c'est fort de sens pour moi, quoi, parce que depuis que je cours, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, qui ont changé. Et puis, plus ça avance, plus c'est fort de sens. Donc, c'est tombé un peu par hasard, mais voilà.
Eh bien écoute, en tout cas, merci pour le temps passé avec nous. Merci et puis bonne prépa, bon tous tes projets, belle réussite, etc. Moi, je continuerai à suivre ça avec beaucoup d'attention. Et puis écoutez, nous, on se retrouve toute la semaine pour les autres épisodes. Le conseil le samedi, le samedi le lundi. Et puis la semaine prochaine, notre invité. Ouais, au mois de janvier, très féminin, hein, je te l'avais dit en intro, j'ai beaucoup de femmes qui vont arriver. Avec un autre sujet un peu différent, même si tu vois, tout à l'heure, tu as dit que tu voulais faire le défi vélo pour la SEP, la sclérose en plaques,
Ouais.
et ben, ma prochaine invitée, est atteinte de cette maladie. Voilà. Mais on
D'accord.
n'a pas parlé spécifiquement de ça, ni de course à pied spécifiquement d'un autre sujet. Mais en tout cas, ça fait partie, ça a un petit lien, tu vois, un petit fil rouge comme ça qui est en train de se créer entre les différents épisodes. Mais je vous laisse ça découvrir la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite à tous une très, 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 très belle journée et à très vite. Ciao, ciao.
Salut.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.